Nous sommes le vendredi 16 septembre. Bonne journée à toutes et à tous.
J'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matchs durant 24 années. Maintenant, je dois reconnaître quand il est temps d'arrêter ma carrière professionnelle. La Laver Cup, la semaine prochaine, sera mon dernier événement ATP.
Alors, au revoir, merci Roger, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis mondial. Met fin à sa carrière à l'âge de 41 ans. Roger Federer l'a annoncé dans cette courte vidéo sur les réseaux sociaux, postée hier. L'homme aux 20 titres en Grand Chelem aura marqué, évidemment, l'histoire de son sport. Dans l'actualité de ce vendredi également, le feu désormais fixé en Gironde. La plupart des habitants de Somos et Sainte-Hélène ont pu rentrer chez eux. Nous y serons dans un instant. Toute la journée, Europe 1, je vous le disais, faites le livre, la rentrée littéraire. On va vous faire découvrir notamment les coulisses, les meilleurs livres de la rentrée. On plongera au cœur des jurys et notamment du plus prestigieux d'entre eux, le Goncourt. Enfin, elle parle peu et c'est pour ça que sa parole est importante. La patronne du Stade de France est revenue hier soir sur les incidents de la finale de la Ligue des Champions dans Europe 1 Sport. Nous en entendrons un extrait dans ce journal. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. God Save the King, titre l'équipe ce matin. Roger Federer fait la une du quotidien sportif. La plupart de vos journées rendent hommage à la légende du tennis. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem a donc décidé de prendre sa retraite. Au-delà du palmarès, le Suisse laisse une empreinte profonde, ineffaçable. Mélange de grâce et d'élégance, on disait de lui qu'il dansait sur un court. Roger Federer aura donc réussi l'impensable, qu'il gagne ou qu'il perde. Chacun de ses matchs se savourait comme un opéra, Axel May.
Oui, un mot résume son style, l'élégance. Richard Gasquet a joué 21 fois contre Federer et a réussi à le battre à deux reprises.
C'est le tennis, quoi, Federer. Là, il y a d'autres joueurs, c'est incroyable. Nadal, Djokovic, c'est extraordinaire aussi, mais c'est pas pareil, quoi. Voilà, c'est pas Federer, c'est Federer, quoi. Au niveau du tennis, de l'élégance, du revers un peu à une main, du coup droit en avançant, de la facilité qu'il dégage, il n'y a que lui, quoi. Les yeux, quand tu regardais ça, tu disais, voilà, c'est... Il y a quelque chose d'unique, quoi.
Les nostalgiques ne manqueront pas d'aller revoir ces 8 finales victorieuses à Wimbledon, toutes de blanc vêtues comme le veut la tradition, ou bien son unique Roland-Garros remporté en 2009. Les supporters pourront l'admirer une dernière fois sur un court lors de la Laver Cup, tournoi d'exhibition dont il est l'un des fondateurs et où Rog, comme il est surnommé, retrouvera son rival devenu ami, Rafael Nadal. Ce sera dans une semaine à Londres, à guichet fermé, avec des billets proposés plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les sites de revente.
Axel May du service des sports d'Europe 1 et Raphaël Nadal qui a réagi sur Twitter. Mon ami Roger, mon rival, j'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais. Ce fut un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi.
À 7h03 sur Europe 1, la France toujours en proie aux incendies. Après la Gironde, la Charente est à son tour touchée.
Plus de 400 hectares brûlés, le plus gros incendie jamais enregistré en Charente à ce jour. 16 foyers identifiés, tous ne sont pas encore fixés. Dans le département voisin de la Gironde, le feu est désormais fixé en revanche à Somos. Il aura dévoré 3400 hectares de forêt, presque tous les habitants ont pu rentrer chez eux. Exemple à Sainte-Hélène, reportage de notre correspondant Benjamin Péter.
Très content de retrouver toute la petite famille. Voilà, on est très heureux. Tout le monde a eu de grosses angoisses, voilà, très peur pour nos maisons.
Jocelyne a le sourire, elle a retrouvé ses voisins, ses amis, son gendre lui aussi est rassuré de pouvoir réintégrer sa maison, même s'il appréhende de voir le bois calciné.
Il va falloir attendre un peu parce qu'il y aura de la fumée encore. Ça va faire mal au cœur, je pense, d'aller à la forêt. Le quotidien va peut-être être un peu modifié, mais on est entier. La maison, elle est toujours là, l'essentiel c'est ça, quoi. Voilà, espérons qu'ils ne reprennent pas, surtout, parce qu'il ne pleut pas, donc... Ça, c'est un peu plus inquiétant quand même.
Ginger était partie se réfugier chez sa sœur avec les enfants. Le contre-coup est très difficile. Elle a eu très peur.
Moi, les enfants, ils ont eu très très peur. Moi, j'ai paniqué aussi, forcément. On s'imagine plein de choses. Est-ce qu'on va retrouver notre maison? Dans quel état?
Bon, là, ça va mieux.
Oui, soulagée. Contente de rentrer. Les enfants vont retrouver leur chambre. On va essayer de reprendre une vie normale. On va essayer, quoi. Ouais.
Alors, une vingtaine de maisons situées au cœur de la zone de feu restent inaccessibles pour le moment, parce que le travail des pompiers est loin d'être terminé afin de s'assurer que le feu ne repartira pas. À Sainte-Hélène, Benjamin Péter, Europe 1.
Attention, si vous devez prendre l'avion aujourd'hui, la grève des contrôleurs aériens va fortement perturber le trafic. Un millier de vols annulés, soit la moitié de ce qui est habituellement prévu.
Le procès de l'attentat à Nice, la cour d'assises spéciale a donc vu ce que tout le monde redoutait de revoir, les fameuses images de la vidéosurveillance le soir de l'attaque terroriste.
Des images terribles, ce sont les mots du président de la cour d'assises spéciale juste avant leur diffusion, une mise en garde utile. Impossible pour les rescapés d'oublier ce camion renversant tout sur son passage. Certains n'ont pas supporté de revivre cette soirée d'horreur, Frédéric Michel.
Oui, des dizaines de personnes écrasées, projetées comme des quilles, des milliers d'autres courant, paniqués. La mort dans le sillage du camion, ces images, plusieurs parties civiles ne les ont pas supportées, sortant en pleurs. Mais la cour devait impérativement les voir, selon l'une de leurs avocates, Catherine Zwark.
Ça me paraît essentiel pour la manifestation de la vérité, bien sûr. Il y a eu des cris de certaines victimes qui peut-être se sont reconnues, qui ont certainement reconnu des proches, et c'est difficile.
Avec son époux et des amis, Isabelle Picard était sur la promenade. Le camion est passé tout près.
Des images de terreur, des moments apocalyptiques, je dirais. J'ai tenu absolument à regarder cette vidéo. Je ne le regrette pas. Je pense qu'un retour en arrière était nécessaire également pour une reconstruction future.
Le soir de l'attentat, Stéphane Herbst a perdu sa femme, Rachel. Ils étaient venus assister au feu d'artifice avec leurs deux jeunes enfants.
Le détail qui revient, c'est la vitesse. C'est ce que je dis toujours, le camion, c'est comme quand vous êtes sur un quai de gare et qu'un train passe sans s'arrêter. Cette notion de vitesse, et en fait, la vie, elle s'enlève en quelques centièmes de seconde. Et j'avais oublié que ça passait si vite, en fait.
Et pour Stéphane, il était indispensable que les accusés soient confrontés aux images.
Ce qu'on a vu, c'est les conséquences de leur choix, et ça, j'en suis persuadé.
Des accusés qui ont tourné la tête ou à peine regardé l'écran.
Frédéric Michel.
En bref, les Russes ont-ils commis un crime de guerre à Izioum, ville récemment libérée par les forces ukrainiennes?
Le président Zelensky affirme qu'une fosse commune a été découverte. Très peu de détails pour l'instant sur le nombre de cadavres retrouvés et les causes de leur mort. Une enquête est en cours.
Et puis la directrice générale du Stade de France était l'invitée d'Europe 1 Sport hier soir.
À une finale Liverpool-Real Madrid gâchée et une réputation ternie pour longtemps. Image désastreuse pour la France. Le meilleur moyen d'effacer tout ça, eh bien, c'est d'accueillir une nouvelle finale de la Ligue des Champions très vite. C'est la conviction d'Alexandra Boutelier.
Pour tout vous dire, moi, il n'y a pas un jour depuis le 28 mai 2022 où je ne me réveille pas sans me demander ce que nous aurions pu faire de mieux. C'est d'autant plus douloureux que le Stade de France a été inauguré en 1998, que depuis, nous avons accueilli 557 grands événements, plus de 36 millions de spectateurs, et que globalement, les choses se sont plutôt bien passées. En ce compris une sombre soirée du 13 novembre 2015, il va falloir à un moment que nous trouvions un moyen de démontrer, de redémontrer que nous savons accueillir cet événement. Le meilleur moyen de le faire, c'est de le réaccueillir. Je le souhaite profondément et si c'était possible, plutôt tôt que tard.
Alexandra Boutelier, la directrice générale du Stade de France, invitée d'Europe 1 Sport hier soir, émission présentée par Virginie Fulpin avec Jacques Pendroux.
Enfin, Europe 1, faites la rentrée littéraire en ce vendredi toute la journée. On va vous en parler dans toutes les émissions. Gros plan ce matin sur le prix Goncourt. C'est la plus prestigieuse récompense qu'un romancier puisse espérer.
Un prix décerné le 3 novembre prochain, mais les membres du jury sont déjà au travail. Ils ont d'ailleurs opéré une première sélection. L'enjeu est considérable pour les romanciers comme pour les maisons d'édition. Et pour les membres du jury, eh bien, la pression est maximale. Nicolas Caro.
À la fin, il n'en restera qu'un. Mais au début, ils étaient 490 romans potentiellement éligibles pour ce Goncourt 2022. Les 10 membres du jury en ont choisi 15. Après un lent écrémage, Didier Decoin, le président de l'Académie Goncourt.
Ah, c'est une course de fond. On a commencé à recevoir les bouquins au mois de mai, commencé à les lire au même moment. Tout l'été, on a communiqué entre nous, et ça, c'est très, très important. Puis on se retrouve le jour de la rentrée et on échange les titres qu'on avait sur le cœur.
Et oui, parce qu'à un moment, il faut bien choisir. L'ennui, c'est que les consensus sont rares et les regrets nombreux. Didier Decoin.
Tout le temps. On a tous les livres qu'on voulait mettre, on savait qu'on aurait plus ou moins un consensus général des autres. Et puis on a le petit chouchou ou la petite chouchoute. Attendez les gars, ça c'est un chef-d'œuvre. Il faut le mettre. Moi, je ne peux pas vivre si vous ne mettez pas ça sur la liste. Comment on est dit, c'est-à-dire ça? Vous voyez le problème que ça peut poser. Mais en même temps, c'est jubilatoire d'échanger, etc.
Jubilatoire, mais aussi exigeant. L'enjeu est considérable pour un écrivain. Le Goncourt, outre le prestige, c'est gagner au loto. En moyenne, le roman élu se vend à plus de 400 000 exemplaires.
Waouh, ouais. 400 000 exemplaires, c'est pas mal.
Ah ouais, c'est un accélérateur de vente, ça c'est sûr. Merci beaucoup Christophe Lamarre. Alors justement, pour fêter la rentrée littéraire, dans un instant, Europe 1 vous propose de recevoir le philosophe Peter Sandy. Alors lui, il a beaucoup réfléchi à ce qui se produit en nous lorsqu'on lit. Vous allez voir, c'est passionnant. Il est 7h10.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Toute la journée, Europe 1, Alban nous le disait à l'instant, faites la rentrée littéraire. Et vous, comment lisez-vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui se produit en nous lorsqu'une histoire nous captive. Ça, c'est un beau sujet philosophique, la lecture. Bonjour Peter Sandy.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes philosophe, vous êtes aussi musicologue. C'est intéressant parce qu'il y a des passerelles entre la musique et la littérature et le livre. Vous êtes aussi professeur de littérature comparée à l'université Brown aux États-Unis. Vous publiez en cette rentrée aux éditions La Découverte un livre qui s'appelle « Pouvoir de la lecture », pouvoir au pluriel, de Platon au livre électronique. Votre livre, Peter Sandy, m'a un peu perturbé puisque je viens de parler d'histoires qui captivent le lecteur, qui s'emparent de lui alors qu'on lit pour s'évader. Le mot « livre » nous vient du latin « liber » qui veut dire « libre ». On est dans le champ lexical de la prison en fait. C'est assez déroutant.
Mais vous savez, j'étais frappé en entrant dans les studios d'Europe 1 de voir ce slogan, ce très beau slogan qui est le pouvoir de l'écoute. Mmh. Et mon livre s'intitule « Pouvoir de la lecture ». Je crois qu'on n'a pas l'habitude d'associer le mot « pouvoir » ni à l'un ni à l'autre. L'écoute, on la conçoit souvent, j'y ai un peu travaillé en tant que musicologue, on la conçoit souvent comme un accueil, comme une hospitalité et comme une passivité au fond. Oui. On prête l'oreille. Et la lecture, c'est un petit peu la même chose. Lire, on n'a pas l'habitude de penser que lire, ça a à voir avec du pouvoir. Or, je crois que dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire le lecteur, l'apprentissage de la lecture, lire, c'est au fond, ça a quelque chose à voir avec la soumission. On prête sa voix, on prête son corps, on se laisse traverser par du discours.
Oui. C'est vraiment un acte de culture, en fait. C'est ça qui est important. C'est un travail sur soi. Mais où se situe le rapport de force dans le fait de lire un livre, Peter Sandy ?
Alors, il se situe... Bon, évidemment, on dit souvent qu'en lisant, par exemple, on acquiert des connaissances critiques, on acquiert d'autres perspectives. Donc, on peut développer une sorte de contre-pouvoir par rapport au discours existant. Mais moi, j'essaye de situer aussi ces rapports de pouvoir à l'intérieur du lecteur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du lecteur, il n'y a pas une voix qui est comme on le pense souvent. Mm-hmm. J'essaye de développer l'idée qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs voix et ce sont des voix qui sont héritées depuis un passé très très ancien. Vous savez, en Grèce antique par exemple, c'était souvent des esclaves qui lisaient et qui lisaient à haute voix pour quelqu'un. Donc on disait à un esclave, tiens, prends le livre et lis pour quelqu'un d'autre. Alors moi je fais l'hypothèse que ces scènes de lecture anciennes, elles n'ont pas vraiment disparu aujourd'hui à une époque où on lit seul et pour nous-mêmes.
Sauf que en nous-mêmes, nous nous commandons et nous sommes celui, cet esclave que l'on force à lire.
Voilà, on incarne en gros tous les rôles. Ouais. Hein. On est à la fois cette voix un peu mécanique qui lit, qui lit en nous. On est aussi celui qui écoute la lecture. Et puis on est aussi celui qui, de temps en temps, se rappelle à soi-même. Ouais. Eh bien, lit, fais attention, recommence, tu n'as pas bien compris. Continue, etc.
Il faut lire pour se cultiver, etc. Et alors vous posez cette question étrange, mais on la comprend mieux après ce que vous venez de nous dire. Vous dites quand je lis, qui lit ? Ben oui, voilà, il y a ces deux rôles, ce commandant et ce soumis que nous sommes dans cet acte de lire. Et alors vous évoquez dans votre livre des situations dans lesquelles des personnes ont été condamnées à lire pour se racheter ou se cultiver. Et ça m'a fait penser à ces prisonniers qui profitent de leur temps d'incarcération pour entreprendre des études.
Oui, alors moi ça m'a beaucoup frappé quand j'ai découvert ces cas, il y en a plusieurs, hein, des cas juridiques de gens qui ont été condamnés à lire parce qu'ils ont enfreint tel ou tel, enfin ils se sont mal conduits. Il y a un roman d'ailleurs, un très beau roman d'un auteur sud-américain qui s'appelle Fabio Morabito et son roman s'intitule « Le lecteur à domicile ». C'est chez José Corti. Et donc, c'est quelqu'un qui est condamné à lire chez des gens comme une sorte de travail d'intérêt général. Voilà. Mm-hmm. Donc, lire, ça peut être effectivement une sorte je ne dirais pas une punition, mais un impératif. Voilà, il faut lire.
Mais vous avez un discours qui est à rebours complet de tout ce qu'on entend sur le plaisir de lire, sur ce plaisir de lire qui d'ailleurs grandit à mesure qu'on lit, effectivement. Il y a un travail initial, mais une fois que celui-ci est accompli, après... Bah, c'est que du bonheur, comme on dit. La formule est un peu triviale, mais vous m'avez compris.
Bien sûr, mais alors j'espère que mon discours n'est pas simplement à rebours de ce qu'on dit généralement, de manière un peu banale et naïve, à savoir que lire, c'est un pur plaisir. Ce n'est pas un pur plaisir, je crois que c'est un plaisir indéniable, c'est même une jubilation, ça peut être un grand, grand bonheur, mais qui se tisse, j'ai envie de dire, qui s'entretisse avec tout ce jeu de contraintes, de pouvoir, de contre-pouvoir qui survit en nous depuis des temps très très ancien. Moi, j'aime bien penser que le lecteur d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui hérite de millénaires d'histoire de la lecture et de toutes sortes de rôles. Ouais. On ne le sait pas, évidemment, mais on est un théâtre historique qui est extrêmement riche et passionnant.
Et alors, j'aimerais bien que vous nous disiez où est-ce qu'on en est, justement, dans l'histoire du livre et de la lecture. On parle beaucoup de cette bataille pour le temps de cerveau disponible. Est-ce que le livre a encore une chance face aux écrans? Vous vous posez quand même cette question qui est assez perturbante aussi. Est-ce qu'un jour, les hommes pourraient arrêter de lire?
Alors, je pense que l'acte de lecture est en train de traverser des transformations immenses. Le livre devient un écran, on le sait. Moi, je lis beaucoup sur ma tablette, oui. Par exemple.
Il y a beaucoup de gens, alors, moi de même, et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, qui disent que ce n'est pas du tout pareil de lire sur tablette ou téléphone que sur un livre papier.
Mais là aussi, moi, j'aime bien penser les choses dans une continuité, non, pas une continuité, dans une perspective historique très longue. Vous savez, quand on lit sur un écran, on fait défiler le texte, par exemple, une page Internet. Et une page Internet, en fait, ressemble beaucoup plus que ce qu'on pense au premier support. Voilà, ouais. Ce qu'on appelait le volumen, qui est une espèce de volute, en fait. C'est de là que vient le mot. Donc, un rouleau qu'on déroulait. On déroule une page Internet. Et en même temps, donc, la page Internet est continue et pas feuilletée. Mais en même temps, elle est feuilletée comme un livre paginé, parce qu'il y a sans cesse des liens. Donc, on clique sur un lien et on est renvoyé ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu avec l'histoire du livre paginé, où il y a des tables, des matières, des chapitres, on peut sauter d'un endroit à un autre, ce qu'on ne pouvait pas faire vraiment lorsqu'on lisait un rouleau qu'on déroule. Donc la page Internet, par exemple, c'est les deux, c'est une sorte de croisement entre le volumen et ce qu'on appelait le codex en latin.
Mais vous ne m'avez pas répondu, est-ce qu'on pourrait arrêter de lire? Est-ce qu'il y a une utilité absolue de la lecture ou est-ce qu'une société peut tout à fait prospérer sans livre et sans lecteur?
J'ai envie de m'approprier votre question, si vous me permettez,
bien sûr.
En pensant à ce qui en serait le symétrique, à savoir est-ce qu'on a un jour commencé à lire? Est-ce qu'on peut s'arrêter de lire? Est-ce que l'humanité s'arrêtera de lire? Ou est-ce qu'elle a commencé à lire? Alors c'est une question très intéressante. Par exemple, l'origine de la lecture, oui. On peut penser que ça a commencé avec l'écriture. C'est sans doute pas tout à fait vrai, parce qu'on n'arrête pas de lire autre chose que des textes. On lit des traces, on lit des gestes, on lit des visages. Donc il y a de la lecture.
Les peintures rupestres sont quelque part une forme de livre, c'est ça que vous nous dites?
Oui, ou tout simplement des traces d'animaux, des traces des fossiles, voilà, toutes sortes de traces. En fait, lire, ça commence sans doute avec les traces. Et donc, même si on peut imaginer de manière utopique ou dystopique que le livre cessera d'exister tel qu'on le connaît, pourquoi pas, eh bien, il y aura de la lecture. Tant qu'il y a de la trace, il y a de la lecture.
Vous savez quels sont les 5 livres les plus vendus au monde?
Non.
Je vous les donne. Hein. La Bible, le Coran, le Petit Livre Rouge, Don Quichotte et un dictionnaire chinois.
Magnifique.
Il
n'y
a qu'un seul roman. Il n'y a qu'un seul roman dans les 5.
Oui, celui que je suis en train de relire précisément ces semaines.
Don Quichotte.
Don Quichotte.
Voilà, peut-être le premier roman de fiction de l'histoire humaine. Merci beaucoup, Peter Sandy, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Pouvoir de la lecture au pluriel, pouvoir avec un S de Platon au livre électronique ». C'est aux éditions La Découverte. Merci. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
7h22.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
Coup de massue dans le monde du tennis. La légende Roger Federer a annoncé hier prendre sa retraite après la Laver Cup qui se jouera du 23 au 25 septembre. Son rival et ami de toujours, Rafael Nadal, déplore une triste journée pour lui et pour le sport dans le monde entier. Un millier de vols annulés aujourd'hui en France, soit la moitié des avions qui étaient prévus. Les contrôleurs aériens débrayent. Ils demandent des augmentations et des recrutements. Un nouveau préavis est déjà déposé du 28 au 30 septembre inclus. Et puis la rentrée littéraire à l'honneur aujourd'hui pour ce vendredi thématique sur Europe 1. Conséquence de l'augmentation des prix de l'énergie, mais aussi de la pâte à papier. C'est une exclusivité Europe 1. L'éditeur Calman Lévy augmentera de 1 euro le prix des livres en janvier.
Cet adversaire,
allô Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Ce week-end, partout en France, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine, 39e édition. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors vous avez retrouvé dans les archives d'Europe 1 l'inauguration d'un jeune bâtiment du patrimoine parisien, la Bibliothèque Nationale de France, François Mitterrand, inaugurée en 1995 au bord de la Seine.
Oui, c'est le choix choix du président de la République, François Mitterrand, qui a demandé une nouvelle bibliothèque 7 ans plus tôt, en 1988. 4 grandes tours en forme de livre ouvert sont là pour abriter des ouvrages sur 400 km de rayonnage. Le jour de l'ouverture, ce monsieur a fait le voyage depuis la Belgique pour une recherche bien particulière.
Vous cherchez quand le mot pétale est passé du féminin au masculin. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu de Bruges en Belgique.
Vous pensez trouver la réponse dans la bibliothèque ?
Ah ben oui, hein. Elles sont là pour ça, hein, les bibliothèques.
La bibliothèque regorge de trésors, en particulier vieux de 4000 ans, explique l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie sur Europe 1.
Alors le plus ancien, c'est un papyrus qui a de 1000 ans Jésus-Christ. Et le plus précieux, ce sont nos manuscrits sur soit des évangiles carolingiens, soit les heures d'Anne de Bretagne, enfin ces manuscrits à peinture. Ou alors peut-être le premier manuscrit de l'évangile, qui n'est pas le plus ancien. Le plus ancien est à Londres, mais enfin qui est celui du 4e siècle.
Alors, il y a une polémique à l'époque sur le prix de construction de ce temple du livre qu'est la Bibliothèque nationale de France.
Oui, le projet coûte 7 milliards de francs, l'équivalent d'1,5 milliard d'euros. Question à l'époque d'un auditeur d'Europe 1.
Mais à notre époque, qui est quand même très troublée, on est à l'époque du chômage, des SDV, etc. Est-ce que toutes ces constructions absolument fastueuses, luxueuses, est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui ne sont pas irrités par tout ce luxe ?
C'est vrai que le projet coûte environ 7 milliards. Ça veut dire clairement 10 000 francs le mètre carré hors œuvre, hors taxe.
Quelques années plus tard, en 2004, un faucon pèlerin est installé sur les toits à 80 mètres de haut pour effrayer les milliers de pigeons qui ont envahi les jardins de la Bibliothèque nationale de France. Jean-Noël Jeannenet est le directeur de la bibliothèque à l'époque.
Leur fiente, leur déjection acide abîmait le sol de notre jardin central et créait des émotions quand on les voyait par dizaines, par centaines venir s'écraser tout sanglant contre la vitre qui protège nos salles de lecture.
Voilà pour l'anecdote, mais plus sérieusement, la Bibliothèque nationale de France accueille aujourd'hui 140 000 visiteurs par an et conserve 14 millions de livres et d'imprimés.
Merci Laure d'Autriche. Alors sachez que l'événement ce week-end pour la BNF, il est sur le site Richelieu, le berceau originel de la Bibliothèque nationale qui rouvre après 12 années de travaux. La salle ovale, la galerie Mazarin, le jardin Vivienne, c'est absolument magnifique. Sachez que samedi et dimanche, il y aura des lectures de textes et même un bal littéraire. C'est parfait pour prolonger la fête du livre qu'Europe 1 vous propose toute la journée à l'occasion de la rentrée littéraire. Tiens, savez-vous qu'en Chine, pour rebondir sur ce que disait Peter Sandy à l'instant, le livre papier est en voie d'extinction chez les jeunes. Nous serons en ligne dans 10 minutes avec le correspondant Europe 1 à Pékin, Sébastien Lebelzik, 7h26.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Et bienvenue au Club des Retraités. Ça, c'est le gentil message posté par Serena Williams pour Roger Federer, la légende du tennis, 41 ans. Raccroche sa raquette, une icône dans tous les clubs de tennis amateurs, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, nous partirons en Angleterre où les habitants rivalisent d'originalité pour rendre hommage à la reine. Reportage dans un club de tricot qui a tout simplement redécoré la ville. Et puis, c'est parfois le projet d'une vie, peut-être de la vôtre, écrire un livre. Quelques conseils à la fin de ce journal Europe 1, faites le livre toute la journée.
Europe 1.
Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Le plaisir du jeu pour lui, le plaisir des yeux pour nous, c'est fini. À 41 ans, Roger Federer prend sa retraite, trahi par un corps usé, abîmé par une carrière vertigineuse. 20 titres de Grand Chelem, un seul au tournoi de Roland-Garros. Retour le 7 juin 2009. Federer vient de réduire Söderling en poussière et soulève la Coupe des Mousquetaires.
Toutes les légendes du tennis, tous les directeurs de tournoi, ceux qui ont en fait rendu les choses possibles pour moi de pouvoir jouer au tennis et d'avoir du plaisir dans ma vie. Alors j'aimerais vous remercier tous parce que c'est pas normal. En tout cas, moi je suis régalé, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup, à l'année prochaine.
Voilà, bye bye Federer, une histoire d'amour, on l'entend avec la France et avec le public français qui le lui rend bien. Dans ce club de tennis de région parisienne, le maestro inspire la jeune génération. Le reportage de Chloé Lagadou.
Raquettes en main, Victoria et Alice travaillent leur revers. Mais l'entraînement a un goût amer pour ces deux adolescentes de 11 ans, déçues par le départ de Roger Federer.
Je suis un peu émue et puis Roger Federer, ça a longtemps été mon idole. J'ai souvent voulu le recopier en faisant des revers à une main. Il est toujours resté gravé quelque part dans mon esprit.
C'était aussi un grand joueur pour moi. Je vais devenir joueuse pro. Donc c'était un exemple.
Un exemple aussi pour Hippolyte qui a suivi la carrière du joueur suisse avec attention.
Il était très fair play, il avait toujours
grande classe sur le court, notamment avec son revers, ses tenues toutes blanches à Wimbledon. Il a toujours été vraiment irréprochable. Je pense qu'on ne l'oubliera pas.
L'ancien numéro 1 mondial reste d'ailleurs gravé dans la mémoire de Maxime, entraîneur. Cet ancien joueur professionnel se rappelle très bien un échauffement avec Roger Federer à Roland-Garros.
Il y a plusieurs années, hein, il était entre guillemets un peu obnubilé à l'idée de, bah, un jour de devoir jouer Nadal et de le battre. Donc il voulait jouer avec des gauchers. Et donc, moi, comme je suis gaucher, j'ai eu la chance de pouvoir jouer quasiment 45 minutes. Vraiment un bon souvenir. C'est un grand champion qui va partir et il sera irremplaçable.
Mais pour se consoler, les fans du maestro pourront le regarder jouer une dernière fois la semaine prochaine. Il disputera la Laver Cup à Londres.
Et pour l'occasion, Roger Federer échangera quelques balles avec, devinez qui ? Kate Middleton, oui, avant le tournoi, oui, la princesse de Galles, elle aussi passionnée par le tennis. Un duo inédit au profit d'œuvres caritatives.
Kate Middleton et le prince William qui sont allés à la rencontre des Britanniques hier, public rassemblé devant le château de Sandringham pour rendre hommage à la reine.
Oui, hommage en tout genre, on peut le dire, parfois même insolite. Est-ce que vous connaissez les tricots à l'effigie de la reine ? Eh bien, à Stafford, en Angleterre, les habitants ont redécoré toutes les boîtes aux lettres de la ville. De quoi surprendre notre envoyé spécial, Nina Droff.
Sur la traditionnelle boîte aux lettres rouge anglaise, Lynn, habitante de Stafford, enfile une drôle de sculpture en laine multicolore, ornée de cœurs et de rubans noirs.
Donc vous avez la couronne et de ce côté-là, un cœur royal en violet avec les dates de notre belle reine brodée et enfin notre ours Paddington avec son drapeau.
Une œuvre en hommage à la reine que Lynn et son club de tricot ont fabriquée à quelques kilomètres d'ici, dans le petit salon de Lynn où des pelotes de laine recouvrent tous les meubles. Après avoir entendu la nouvelle, elle n'a pas hésité une seconde avant de se saisir de ses aiguilles.
J'ai tout de suite appelé mes amis en leur disant que ce serait bien de faire un hommage. Je les ai invités chez moi et on s'est tout de suite mis à tricoter des couronnes multicolores.
Les couvre-boîtes aux lettres ont été placés à des endroits stratégiques de la ville afin qu'un maximum de personnes puissent les voir et que la reine ne soit jamais oubliée.
Les gens passent devant ou envoient une lettre, ça les fait penser à la reine. Moi, j'ai connu la reine toute ma vie, mais j'ai une petite fille de 3 ans et j'ai envie qu'elle se souvienne de la reine aussi, d'une façon un peu originale.
Et le club prévoit de tricoter tout le week-end pour installer de nouveaux couvre-chefs partout dans la ville pour les funérailles. Stafford, Nina Droff, Europe 1.
7h34.
J'espère qu'elle va nous en ramener, hein, Nina.
Oh oui, chapeau. J'ai déjà passé commande, rassurez-vous. Vous me direz la couleur que vous voulez pour votre boîte à lettres. 7h34, quand va-t-on en finir ? De nouveaux incendies ce matin en Charente. 400 hectares brûlés, a priori un record dans l'histoire du département.
Ah oui, les pompiers de la région mobilisés également en Gironde. Le gigantesque incendie sur la commune de Somos est désormais fixé.
Oui, et le sud-ouest, d'ailleurs, territoire ravagé par les feux cet été. D'ailleurs, de nombreuses forêts vont rester fermées aux chasseurs pour la saison qui vient de démarrer.
Ah oui, ils sont pointés du doigt après une série d'accidents impliquant des promeneurs. Il y en a eu 98 l'an dernier, dont 8 mortels.
Oui, une pétition pour sécuriser la pratique a aussi réuni 120 000 signatures, mais pas sûr qu'elle fasse effet. Alexis de La Fontaine, dans un rapport qui vient d'être publié, le Sénat donne raison au lobby de la chasse.
Oui, sur recommandation des chasseurs, le Sénat préconise en priorité un délit d'entrave à la chasse. Actuellement, un opposant qui empêche ce loisir encourt une simple contravention. Les sénateurs souhaitent désormais en faire un délit passible d'un an de prison. C'est une provocation, clament les associations anti-chasse, comme Audrey, membre du collectif à l'origine de la pétition, qui dénonce un tour de passe-passe.
Cette proposition n'a rien à voir en fait avec la mission première de cette mission de contrôle, qui était de renforcer la sécurité des non-chasseurs. Et on se demande un petit peu ce que ça vient faire là. On prend ça comme une influence du lobby de la chasse.
Autre déception, une grande partie des recommandations écologistes sont évincées de ce rapport, comme l'instauration d'un jour ou deux par semaine interdit à la chasse sur l'ensemble du territoire pour rassurer les promeneurs. Seul lot de consolation pour les associations, les sénateurs préconisent d'interdire l'alcool et les stupéfiants lors des battues et veulent imposer un certificat médical annuel pour garder son permis de chasse.
Alexis de La Fontaine.
7h36, toute la journée, Europe 1 fête le livre et la rentrée littéraire, un thème choisi par la rédaction chaque vendredi. C'est votre nouveau rendez-vous.
Oui, la rentrée littéraire à l'honneur. D'ailleurs, une idée vous a peut-être déjà traversé l'esprit. Et si j'écrivais un livre, alors autant il faut... Je vais y arriver, pardon. Encore faut-il savoir par où commencer. C'est vendredi, excusez-moi. Alors, le début, la fin, le titre. Écoutez les conseils d'Amélie Fonlup. Elle vient de terminer justement son premier roman. Ça s'appelle La Passagère aux éditions Rivage. L'écrivaine s'est confiée à Louise Salé.
L'angoisse de la page blanche où s'attarder sur le choix d'un mot pendant des heures, Amélie Fonlup l'a vécu. Ce qui l'a fait tenir, c'est la discipline.
J'avais presque des horaires de bureau. Je me mettais à ma table même si j'avais pas d'inspiration. Et l'inspiration venait toujours, que ce soit pour un petit paragraphe ou un grand chapitre. On a l'image un peu d'écrivain qui écrit comme ça au fil de l'eau, qui a des inspirations fulgurantes. Et ça peut être le cas, mais en tout cas, vraiment se discipliner et être tenace.
Amélie a écrit son roman une première fois, puis réécrit entièrement une seconde fois après avoir glané quelques conseils.
Je crois qu'après, il faut s'en dégager et il faut se faire confiance. Parce que la page blanche peut faire peur et donc écrire sans trop se poser de questions et pas trop se regarder écrire surtout aussi.
Il faut aussi se relire et Amélie a une technique.
Il m'est arrivé beaucoup aussi de me relire à voix haute pour savoir si ça, c'était fluide, si mon écriture était fluide, si les paragraphes s'enchaînaient bien, ça c'est important.
Pour trouver un éditeur, enfin, il vaut mieux éviter d'envoyer son manuscrit à toutes les maisons d'édition.
Donc, vaut mieux cibler quand même, s'intéresser à la maison, aux auteurs qu'elle publie, savoir si on aime ses auteurs et si on a des points communs. Essayer aussi d'aller dans des salons, faire un maximum pour rencontrer des gens qui écrivent et les éditeurs. Et à chaque fois que je les rencontrais, je disais, bah voilà, je suis en train d'écrire, qu'est-ce que vous me conseillez?
Une fois le contrat signé, c'est beaucoup plus serein. Amélie s'est sentie bien entourée et encadrée.
Louis Salé, la rentrée littéraire avec les conseils des libraires, c'est toute la journée sur Europe 1. D'ailleurs, lui aussi a écrit quelques livres, mais c'est surtout pour ses chansons qu'il est resté dans notre mémoire. À l'amour, à l'amour, à l'amour, on parle toujours. À l'amour. Marcel Mounji revisité hein, par Bon Entendeur, c'est pas exactement la version originale.
Ça sonne bien.
C'est le centenaire de sa naissance aujourd'hui, ouais. 16 septembre 2022, donc 16 septembre 1922. Il y a même un coffret qui est sorti au début du mois.
La Bon Entendeur, c'est cet artiste qui revisite musicalement des classiques. C'est toujours c'est assez bien fait,
ouais,
généralement.
C'est très réussi.
Voilà, c'est toujours assez bien fait. Bah, la musique, on va en parler dans un instant. Merci beaucoup, Romain Oquet, avec Stéphanie Loire, qui a du Ozzy Osbourne. Ça, c'est presque une dédicace personnelle, je suis ravi. Alors voilà, et Nicolas Caro, bah, il va beaucoup parler ce matin. Mmh. On va parler des sorties de.
Désolé.
Le livre du jour. Et puis, tiens, puisqu'on parle du livre aujourd'hui, faites-nous savoir, vous, qu'est-ce un livre qui vous a marqué? Vous nous dites ça sur Europe1.fr, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je me ferai un plaisir de partager vos conseils. Voilà, dans un instant, bah, nous irons faire un petit tour en Chine. Comment lisent les petits Chinois? Vous allez voir, on est un peu surpris. À tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Toute la journée, Europe 1 fête la rentrée littéraire. Depuis quand le livre se fait-il lui-même comme ça chaque mois de septembre? Bah, soyez là à 8h40. Véronique Cardy, jeune PDG des éditions Jean-Claude Lattès, sera avec nous. Elle n'a que 42 ans hein, quand même pour un poste aussi élevé, c'est assez rare. Et cette femme est une encyclopédie vivante de l'histoire et de l'industrie du livre. Et ailleurs dans le monde, bah, je vous propose un petit détour par la Chine. On y inventa l'imprimerie 400 ans avant Gutenberg. Bonjour Sébastien Lebelzik.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Pékin. Sébastien, les Chinois lisent-ils beaucoup?
Non, écoutez, très peu. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je vis en Chine et honnêtement, hein, j'ai dû croiser une ou deux fois seulement quelqu'un avec un livre papier, je veux dire. En Chine, on ne lit que sur des tablettes ou sur son téléphone portable et on ne lit que des mangas ou des romans à l'eau de rose ou parfois même de la science-fiction. C'est l'essentiel de la littérature ici en Chine. Les Chinois lisent très peu, en moyenne 4 livres et demi par an. C'est 10 fois moins qu'un Japonais. Alors, ça s'explique de plusieurs manières. Hein. D'abord, la littérature, le roman classique a quasiment disparu des librairies au profit de biographies autorisées du président chinois ou de livres de pure propagande. On les retrouve, ces livres, dès l'entrée des librairies, sur des présentoirs, toujours bien en vue. Et ça va même beaucoup plus loin. Écoutez Peng Yujun, il est professeur de littérature chinoise à Pékin.
En Chine, il n'existe pas de la rentrée littéraire qui existe chaque année en France. Et en revanche, il existe une sorte de liste conseillée par les autorités publiques. Des livres conseillés aux jeunes de lire. C'est souvent, il s'agit souvent de, comment dire, des livres dits d'une énergie positive, éducative, pour dans le but d'éduquer le jeune public.
Alors bien sûr, personne, hein, sauf à l'école, ne s'impose cette liste de lectures, d'autant qu'elle ne comporte aucun des grands écrivains chinois comme Mo Yan, prix Nobel de littérature en 2012. Il faut vraiment fouiller hein, dans les librairies pour trouver ses ouvrages. D'ailleurs, il n'a plus rien publié ici en Chine depuis 10 ans.
Alors le marché du livre chinois, pourtant, il devrait être gigantesque dans un pays de près d'1,5 milliard d'habitants.
Oui, mais le gros problème, c'est que finalement, il n'y a pas de place pour les jeunes auteurs, puisque tout ce qui fait le sel d'un roman, la violence, la politique, les sujets de société, tout ce qui est clivant, tout ce qui fait réfléchir, hein, tout cela est interdit en Chine. Il ne faut jamais l'oublier, la censure est omniprésente. Le bureau de la propagande, hein, c'est son nom, surveille avec attention tout ce qui est publié, aussi bien sur papier que sur Internet. Certains écrivains, pour l'avoir un peu oublié, ont été emprisonnés, hein, pour avoir publié une littérature qualifiée d'érotique ou même parler d'homosexualité. Un écrivain chinois, c'est d'abord un artiste sous surveillance, un artiste même au service de l'État. C'est ce que nous dit Renaud de Spence, il est sinologue et écrivain.
Ce qu'il faut savoir aussi en Chine, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous, c'est que la plupart des grands écrivains chinois, en réalité, sont salariés. Ils sont salariés de l'Association nationale des écrivains chinois. Et le Graal, ce qui est génial, enfin la plupart des auteurs français adoreraient avoir ça, c'est qu'ils ont un salaire.
Et c'est tout le travail, hein, de ces écrivains fonctionnaires, hein, de satisfaire la propagande, avec en ce moment des thèmes imposés comme l'harmonie et la prospérité commune. Alors ça donne une littérature plutôt mièvre, hein, sans aucun humour, ni aucun second degré, avec des histoires d'amour, mais aussi des histoires de réussite sociale, des paysans devenus millionnaires et qui font le bien de leur famille ou de leur village. On est donc très très loin d'une littérature qui reflète vraiment la société chinoise actuelle.
Merci beaucoup Sébastien Lebelzik, 7h46.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Voilà, ça donne envie, hein, cette littérature chinoise, n'est-ce pas Nicolas Caro, des livres sur l'harmonie, la réussite et la redistribution.
Ça fait peur.
Je vais quand même conseiller un livre à nos auditeurs d'un auteur chinois, il s'appelle Hao Jingfang. Bon, retenez pas son nom, vous ne trouverez jamais, c'est Pékin Origami, c'est une nouvelle absolument incroyable. Prix Hugo 2017, le prix Hugo, ça décerne une nouvelle ou un roman de science-fiction. C'est une histoire d'une dystopie, mais qui pourrait surgir un jour. C'est absolument incroyable comme livre. Pékin Origami, c'est très court, ça c'est facile à trouver. Tiens, j'ai une petite surprise pour vous, Nicolas Caro.
Ah. Dis donc, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres, partout, alors. Hein? J'ai acheté les mémoires de Poulidor, il n'a même pas lu.
Tu n'as même pas lu ce que t'as acheté ton père. Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor?
Non, c'est pas au programme à l'école.
C'est pas au programme à l'école.
Ça non plus, c'est pas au programme, dis donc.
Tiens
alors.
C'est ton Lucenard qui va tailler la haie.
Voilà. Et vous avez lu les mémoires de Poulidor, Nicolas Caro?
Ben pas encore, mais c'est sur ma liste. Ouais.
Bon, bonjour d'abord. On salue. Et bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour à tous, bonjour Dimitri.
On va parler musique. Tiens, réfléchissez par avance un bon livre que vous conseilleriez aux auditeurs d'Europe 1. Je vous demande ça à la fin de vos chroniques. Mais d'abord.
Vous
Nicolas,
ramassez les copies?
Je ramasse les copies. Okay. Mais non, mais on fait ça, c'est entre amis. Le vendredi avec vous, Nicolas Caro, c'est classique ou roman culte? Ce matin, vous nous faites relire Le Grand Maulne.
Oui, qui est un classique qui sent un peu la poussière, c'est vrai, mais c'est à tort. Signé Alain Fournier, il y a un trait d'union entre Alain et Fournier parce que c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'était Henri Alban Fournier. Alors là, quand on dit ce titre, la moitié des auditeurs vont penser à l'école. Et c'est vrai que Le Grand Maulne, ça fait partie de ces monuments incontournables, un peu intimidants à force d'être mythifiés.
Mais vous dites à tort, donc.
À tort complètement, parce que c'est un roman de jeunesse, c'est un roman vivifiant, un roman sur la liberté qui serait interdit par la censure chinoise. L'histoire, c'est un adolescent qui raconte François Sorel, le fils de l'instituteur dans un petit village du Cher, Sainte-Agathe. Un jour arrive un garçon un peu plus vieux, c'est Augustin Maulne, que l'on surnomme le Grand Maulne. C'est une sorte de grand frère pour François. Ce Grand Maulne est un peu rebelle à l'autorité. Un jour, il emprunte une petite voiture à cheval et il se perd dans la région. Son escapade va durer 3 jours et pendant ces 3 jours, il tombe par hasard sur un vieux domaine, une sorte de manoir en ruine. Mais beaucoup de gens sont là, déguisés très bizarrement. Il comprend que c'est un mariage, on attend les mariés et pendant ce temps-là, on s'amuse. Il décide de s'incruster un peu. Il rencontre à cette occasion une jeune fille magnifique, évidemment, mais très mystérieuse, coup de foudre. Je vous passe les détails, mais on apprend bientôt que le mariage n'aura pas lieu puisque la fiancée s'est enfuie. Maulne rentre à Sainte-Agathe, mais il n'a qu'un seul but, retrouver ce domaine perdu et bien sûr la jeune fille dont il ne connaît que le nom.
Et donc c'est une histoire d'amour.
Oui, mais pas seulement. C'est une histoire d'amitié aussi et d'aventure. François essaye d'aider Maulne à retrouver le domaine perdu. Et bon, plein de rebondissements sont à venir. Alors à l'école, on vous expliquerait que tout le livre est plein de symboles, on peut faire mille analyses, sans doute, mais c'est avant tout un roman pur, c'est-à-dire une bonne histoire, avec un suspense, servi par un style très très juste. C'est une plongée aussi dans la campagne et dans la vie du tout début du XXe siècle.
En quelle année ce grand môle n'a-t-il été publié, tiens ?
1913. La date est importante. Alain Fournier l'a publié à 27 ans. Premier roman, gros succès. Il frôle le Goncourt à une voix. Mais Alain Fournier meurt au combat en 1914.
Comme tant d'autres. Hein.
C'est sans doute ce qui a contribué aussi au mythe. C'est un destin d'une tristesse sans nom. Mais il a laissé ça. Et un siècle plus tard, on le lit encore. Et franchement... allez-y, quoi. Relire Le Grand Maulne, c'est retrouver un vieux copain.
Oui, alors, il faut surmonter le traumatisme scolaire,
exactement.
C'est ça. Tiens, Vincent Trémollet de Villers pour l'édito politique dans un instant.
Bonjour, Dimitri.
Un bon livre, Vincent.
Alors, un livre moi, qui m'a transformé, hein, qui a été une forme de dépucelage littéraire, c'est Voyage au bout de la nuit. Ah. J'ai lu ça à 17 ans.
Oui,
je voudrais dire aux auditeurs, s'ils ne l'ont pas lu, qui prennent une semaine, un mois, un an pour le lire.
Un an, faut vraiment, c'est une page par jour.
Voilà. Hein,
c'est, voilà. Allez, on vous entend dans un instant, mais d'abord, les sorties musicales Stéphanie Loire. Un projet qui réunit trois artistes sacrés aux victoires de la musique dans un même projet musical, et ça sort aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ?
Tout à fait, trois artistes qui cumulent cinq victoires de la musique à eux seuls, Grand Corps Malade, le rappeur franco-rwandais Gaël Faye et le chanteur Ben Mazué. Tous les trois se sont associés pour fabriquer un album de 7 titres écrit, composé et enregistré en seulement 6 jours dans un studio du sud de la France. C'est peu, 6 jours. Cette EP est intitulée Éphémère, parmi les titres, une chanson qui sonne comme une invitation à l'évasion. Taillez la route.
Taillez la route. Ils ne savent pas que je mords, que ma vie sans le souffre. Je passe en météore comme on passera tous. Je suis fait de pierre granit, mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais, je taillerai la route.
Ici, un album qui fait la part belle à la prose, qui donne envie de tailler la route. Là, ça tombe bien, c'est vendredi, on appartient au week-end.
Autre nouveauté qui sort ce matin, c'est le nouvel album de L'Homme Pâle.
Oui, L'Homme Pâle, Mauvais Ordre, c'est le titre de ce troisième album. Un disque né de 2 années et demie de pause et d'un besoin de trouver une nouvelle identité musicale. Le rappeur se penche sur les troubles existentiels d'un trentenaire en proie aux doutes de sa génération et il scande « J'ai peur de devenir l'image que je renvoie » dans le titre « Mauvais ordre ».
Toujours bloqué dans la mauvaise zone, c'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. J'ai encore tout emmêlé, putain ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Tu me trouves étrange et le piège.
Je précise que L'Homme Pâle s'apprête à parcourir les routes de France avec une tournée à partir du 10 février. Il va aller d'Amiens à Strasbourg en passant par Caen, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nice. Il va faire aussi 3 arrêts à Paris à l'Accor Arena les 28, 29 et 30 mars.
Voilà, c'est le rap propre sur lui, hein, L'Homme Pâle.
Le rap conscient.
Le rap conscient. Oh non, c'est pas. Vous croyez que c'est conscient ?
C'est le rap. Oui. Oui, bien sûr, je pense. Enfin, pas seulement de politique, mais c'est un rap intellectuel.
Voilà, L'Homme Pâle s'appelle Mauvais Ordre, Grand Corps Malade, Ben Mazué, Gaël Faye, ça s'appelle Éphémère, c'est dispo dès aujourd'hui. Et ils seront vos invités tous dans Musique, demain et ce dimanche de 16h à 17h.
Je suis ravie de les recevoir. Ouais. Pour conclure, le 13e album de l'une des icônes du métal, il est temps de laisser parler votre côté métalleux, Dimitri. Ozzy Osbourne, qui à 73 ans vient de publier Patient Number 9, le chanteur intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame, s'est entouré notamment d'Eric Clapton pour le titre One of Those Days, une génération de légendes qui en a encore sous le pied.
J'avoue que j'ai cherché Clapton sous Ozzy quand même dans cette
chanson. Il faudrait prendre le temps de l'écouter en entier.
Vous savez quel est son surnom à Ozzy ? Le Seigneur des Ténèbres.
J'allais dire le Seigneur des Anneaux.
Il est connu pour avoir décapité une chauve-souris sur scène à coups de croc comme ça. Et il a dû se faire vacciner d'urgence contre la rage juste après.
Ah, c'est sympa.
Ça n'est qu'un homme.
C'est pas très Claptonien.
Merci Nicolas.
Surnommé Slow End.
Vous avez raison, c'est vrai. Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure à 8h40. Merci à vous, Stéphanie. Bonne semaine. 7h53 sur Europe 1.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Nouveau vendredi thématique sur Europe 1 aujourd'hui. On se penche sur cette rentrée littéraire toute la journée sur votre radio. Sachez que depuis l'attribution du premier Goncourt concours en 1903, la maison d'édition la plus primée est Gallimard avec 39 récompenses. Les incendies continuent de ravager la France. De nouveaux feux se sont déclarés hier en Charente, brûlant 400 hectares. Dans le département voisin, en Gironde, l'incendie dans la zone de Somos a été fixé. Hier, 3400 hectares sont partis en fumée. Et puis, bienvenue au club des retraités. La petite phrase de Serena Williams hier soir après l'annonce de Roger Federer. Le tennisman 20 fois vainqueur en Grand Chelem a annoncé prendre sa retraite à l'issue de la Laver Cup la semaine prochaine.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro. Ça fait 5 ans que ça dure. Le dernier rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, remet la réforme des retraites sur la table.
Et oui Dimitri, cette histoire de réforme des retraites, ça ne commence pas avec Macron. C'est même fascinant de voir l'importance de la réforme des retraites dans notre imaginaire. C'est une mythologie, c'est une obsession, c'est presque une névrose. Alors je voudrais m'arrêter une minute sur le mot. Dans la chose militaire, la retraite, c'est ce qui précède ou ce qui suit la défaite. C'est pas enthousiasmant. Dans la chose religieuse, c'est un isolement volontaire du monde et de la société. C'est pas exaltant non plus. Dans la chose économique, c'est la sortie de l'univers des métiers. C'est aussi un peu triste. Et même dans la chose sportive, qu'on le voit avec la retraite de Roger Federer, ça laisse à chacun un goût amer. Donc on est loin de la vitalité, de l'ambition ou de l'esprit de conquête. Alors évidemment, je serai le dernier à me moquer de cet été indien de la vie, mais ça ne peut être le but ultime de l'existence. Avec tous ces jeunes qui démissionnent, ce phénomène de la grande démission, on a même l'impression qu'il faudrait avancer la retraite à 25 ans. Sans parler de Sandrine Rousseau, qui au rythme où elle va, voudra bientôt inscrire le droit à la paresse dans la Constitution. Alors au risque de vous paraître un peu boomer, je trouve tout cela un peu déprimant et c'est un paresseux contrarié qui vous parle.
Alors on entend souvent qu'elle aveut, on entend souvent également Vincent que la réforme des retraites c'est la mère de toutes les batailles.
Oui, attention, je ne veux pas relativiser l'enjeu économique de cette réforme, il est central. La retraite à 65 ans permettrait d'équilibrer le système, de renflouer un peu les caisses de l'État, de financer des dépenses qui de crise en crise s'accumulent et peut-être de réduire un peu nos déficits. L'augmentation de l'espérance de vie impose ces mécaniques de travailler plus longtemps. Pour la Commission européenne comme pour les marchés financiers auxquels nous empruntons, cette réforme ferait la preuve que la France est un débiteur rigoureux et solvable. Enfin, Macron sait que s'il tarde trop, Édouard Philippe et Bruno Le Maire trouveront là un prétexte pour rompre avec lui et afficher leur esprit réformiste. Donc pour toutes ces raisons, Emmanuel Macron doit faire cette réforme.
Alors semble-t-il, le chef de l'État hésite sur la méthode. Est-ce qu'il doit aller vite ou bien prendre le temps de la concertation?
Non, surtout pas, épargnez-nous le temps de la concertation. Une nouvelle convention citoyenne sur les retraites comme il y en a sur tant de sujets, non. Souvenez-vous du temps qu'on a passé sur la dernière réforme des retraites lors du dernier quinquennat. C'était une cathédrale technocratique assommante et incompréhensible. Alors heureusement, nous en sommes sortis et on a l'air d'aller vers une réforme plus simple. Même si tout est encore très flou. Oui. 65 ans, 64 ans, 63 ans, on n'en sait à peu près rien aujourd'hui. En revanche, si Macron veut aller vite, il peut. Un amendement fin octobre au projet de loi de finances sur la sécurité sociale et le tour est joué. Soit la droite vote avec les macronistes et cela fait une majorité, soit elle refuse de le faire et le gouvernement, grâce au 49-3, passe en force. En théorie, c'est très séduisant, mais sur fond d'inflation et de crise énergétique, c'est beaucoup plus compliqué. Emmanuel Macron se mettrait à dos toutes les oppositions, la CFDT, syndicat jusqu'ici constructif, une partie de sa majorité. Et Elisabeth Borne elle-même n'est pas emballée à cette idée. Elle éviterait peut-être la motion de censure, mais à quel prix ? Alors, d'un autre côté, si Emmanuel Macron attend, il sait que la situation ne sera pas plus favorable dans un an, dans deux ans ou dans trois ans. Donc foncer, c'est très risqué. Ne rien faire, c'est très dangereux. Reste la solution d'une réforme sans substance pour dire qu'on a fait quelque chose. On pourrait l'appeler par exemple réforme des retraites, mais elle serait tellement consensuelle, tellement vide qu'elle signerait la retraite de l'esprit de réforme.
Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro, votre journal ce matin, les adieux de Roger Federer et le Covid. Pourquoi la crise est derrière nous, 7h57.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
La réforme des retraites de Carib dans Silla, décidément. On en parlera avec Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique et l'invité d'Europe Matin à 8h13.
Europe 1.
Nous sommes le vendredi 16 septembre, il est 8h01, soyez donc les bienvenus. C'est une info Europe 1, vos livres préférés vont augmenter l'an prochain, plus 1 euro en moyenne par ouvrage. Pour faire face à la progression des prix du papier, c'est une conséquence directe de la crise énergétique. Explication dans un instant. Nous fêtons justement la rentrée littéraire ce matin sur Europe 1. Immersion à la librairie de Paris, place de Clichy, dans un instant. Nous irons également à Londres, où les hommages à la reine Elisabeth II n'empêchent pas le business. Reportage dans le quartier d'affaires de la City. Et puis quel avenir pour Roger Federer, le maestro du tennis mondial prend sa retraite. Il pourrait se recentrer sur sa famille et sa fondation. Et il le disait déjà sur Europe 1 il y a 5 ans.
Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1.
Le journal Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Europe 1 mobilisé pour vous faire vivre toute cette journée, la rentrée littéraire. C'est la thématique de ce vendredi. Pas moins de 490 nouveaux romans atterrissent sur les étals des librairies jusqu'au mois d'octobre. Une période charnière pour gagner en visibilité auprès des lecteurs. Ce matin, on vous emmène à la librairie de Paris, magasin emblématique de la place de Clichy dans le 17e arrondissement. Là-bas, l'arrivée des nouveaux livres est toujours un moment d'excitation et d'effervescence, Louise Salé.
Au centre du magasin, des tables, beaucoup plus que d'habitude, croulent sous les ouvrages qui sont changés de place trois fois par jour. Une astuce de libraire pour attirer l'œil.
Je dirais que l'endroit un peu magique, c'est le pilier qui se trouve juste à l'entrée du magasin.
Géraldine Mosservet, responsable de la librairie, septembre est un mois décisif pour gagner en visibilité.
La rentrée littéraire est un moment effectivement très important en librairie, qui est un moment médiatique, qui est un moment d'excitation aussi. Et septembre, effectivement, c'est vraiment la période où on va accompagner le plus possible les auteurs, les éditeurs. On est sur un programme très chargé puisqu'on a quasiment une rencontre par soir. Comme ça, le soir, on a un petit système de banc, les gens peuvent s'approcher. Et puis, ça fait quand même un petit cocon, mais qui est quand même au cœur de la librairie. Et ça, c'est important pour nous.
Muriel est venue profiter de cette rentrée.
Il va y avoir des choses à découvrir, des auteurs que j'aime bien. Maintenant, je ne viens pas avec une idée préconçue. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur.
D'autres se baladent plus rêveurs, comme Eyob, étudiant.
Je trouve que déjà, il y a une ambiance assez solennelle. Je trouve que c'est assez agréable de pouvoir avoir le livre, pouvoir les toucher, être proche d'eux. Je suis déjà aspiré, quoi. Donc voilà.
Après avoir hésité avec Cher Connard de Dépente, Eyob a finalement jeté son dévolu sur un classique, Le Joueur de Dostoïevski.
Le reportage de Louis Salé.
Voilà, et en cette rentrée littéraire, c'est une information Europe 1. Les livres vont coûter 1 euro de plus en moyenne à partir du mois de janvier.
C'est ce qu'annonce Philippe Robinet, le directeur général de Calman Lévy. Il sera l'invité d'Elisabeth Assayag dans La France bouge entre 13h et 14h sur Europe 1. Et il prévient déjà, la hausse des prix est inévitable.
Aujourd'hui, le coût du papier, j'ai un impact direct de 2 euros par exemplaire. On ne va pas répercuter les 2 euros, mais on va en répercuter une partie.
Donc évidemment. Vous allez répercuter quoi ? 1 euro ?
Oui, à peu près.
1 euro, vous nous dites aujourd'hui, 1 euro sur chaque livre, à partir de quand ?
À partir du début de l'année prochaine.
Augmentation d'un euro donc par livre. Et on a voulu savoir, Baptiste Morin, si les autres éditeurs vont eux aussi suivre le mouvement.
Tout simplement parce que fabriquer un livre coûte de plus en plus cher. Rendez-vous compte, en un an, le prix de la pâte à papier a presque doublé. La tonne est passée de 600 à 1100 euros. Ajoutez à cela l'augmentation des prix de l'énergie pour faire tourner les rotatives, celui du carton d'emballage, du transport, de la livraison, tout a augmenté. Alors en août dernier, la maison d'édition bretonne indépendante, Locus Solus, a déjà pris cette lourde décision, augmenter de 1 ou 2 euros le prix du livre. Le responsable commercial Régis Lemercier l'explique, les solutions étaient limitées.
Il y a deux solutions en fait qui s'offrent à nous, c'est éventuellement d'augmenter le prix du livre. Ou alors, c'est d'augmenter le tirage, la quantité de livres imprimés pour compenser cette augmentation du prix du papier.
Les éditions Flammarion, Fayard et Duseuil que nous avons contactées nous ont répondu qu'une telle décision n'était pas à l'ordre du jour de leur côté. Mais en coulisses, certains nous confient qu'elle finira par s'imposer. Car sur un livre vendu 20 euros, l'éditeur ne perçoit que 4 euros. Lorsqu'il prend une augmentation de 1 euro à son compte, il réduit donc son revenu par livre de 25%.
Les précisions de Baptiste Morin pour Europe 1. Inflation, augmentation des prix de l'énergie, LVMH présente sa feuille de route pour réduire sa consommation. Après la grande distribution, c'est le numéro 1 mondial du luxe qui s'engage à participer à l'effort à l'heure de la sobriété énergétique. LVMH veut réduire de 10% sa consommation d'électricité d'ici à octobre 2023 dans l'Hexagone. Parmi les annonces du groupe, l'extinction des lumières dans les magasins et les sites de production entre 22h et 7h du matin. La crise énergétique, un des sujets qui est au cœur des journées parlementaires des Républicains. Elles ont commencé hier à Biarritz et ça continue aujourd'hui. Députés et sénateurs LR travaillent pour préparer la rentrée à l'Assemblée et au Sénat avec cette volonté d'être une opposition constructive. L'occasion aussi pour les candidats à la présidence du parti, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, de faire campagne car ils ont besoin chacun de 485 parrainages de militants, 10 de parlementaires avant le 3 octobre. Le reportage d'Alexandre Chauveau.
Réunis au Palais des Congrès avec vue sur l'Atlantique, les parlementaires LR veulent surfer sur le résultat des élections législatives pour peser le plus possible à l'Assemblée. Mais en sous-main, la présidence du parti occupe la plupart des conversations. Chacun met en avant ses atouts. Bruno Retailleau revendique l'air de rien, le soutien des élus.
On est à Biarritz, Maïder Arstegui me soutient, d'autres élus aussi. Julien Aubert m'a rallié ma candidature cette semaine, aux côtés de François-Xavier Bellamy, d'Otman Nasrou.
Quand Éric Ciotti compte directement sur les militants.
Ceux qui votent, ce sont les militants, personne d'autre. C'est d'eux d'où vient la confiance et je sais que cette confiance chez les militants, elle est forte pour ma candidature.
Enfin, Aurélien Pradi a séché la réunion convoquée par Annie Genevard pour tenter de convaincre les trois prétendants de ne pas faire de vagues. Le député du Lot organise en marge une conférence de presse et bien que conscient de son déficit de notoriété, il affiche clairement ses ambitions.
Nous allons aller convaincre les adhérents un par un. Nous savons faire, ce sera avec les dents, irons les chercher comme nous l'avons fait pour nos propres électeurs.
Hier soir, les trois prétendants ont dîné ensemble, mais chacun au plus proche de ses soutiens. Chez les Républicains, la course à la présidence est officiellement lancée. Biarritz, Alexandre Chauveau, Europe 1.
Le premier tour du scrutin aura lieu les 3 et 4 décembre prochains.
Europe 1, il est 8h07. Vous écoutez le journal de Clément Barguin. En Ukraine, une fosse commune a été découverte à Izium, ville reprise aux Russes il y a quelques jours, dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv.
Oui, c'est ce qu'a affirmé hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son message vidéo quotidien. Écoutez.
Une fosse commune a été découverte à Izium, dans la région de Kharkiv. Les procédures de vérification ont déjà commencé. Et il devrait y avoir plus d'informations demain, car des journalistes ukrainiens et internationaux viendront à Izium. Nous voulons que le monde sache ce qu'il se passe réellement et ce à quoi l'occupation russe a conduit. Boutcha, Mariupol et maintenant, malheureusement, Izium.
Dans le même temps, Ursula von der Leyen souhaite que Vladimir Poutine soit traduit en justice. Dans une interview à un média allemand, la présidente de la Commission européenne déclare que le président russe doit être jugé devant la Cour internationale pour les crimes de guerre commis en Ukraine.
Ursula von der Leyen qui fera partie des nombreux dirigeants présents lundi à Londres pour les obsèques de la reine Elisabeth II.
Londres et cette image toujours aussi impressionnante. Des milliers de Britanniques prennent leur mal en patience pour se recueillir devant le cercueil de la reine. La file d'attente s'étend sur plusieurs kilomètres, mais alors que le centre de Londres pleure Elisabeth II, dans le quartier des affaires, business is business, à la City, la vie continue. Pas le temps de verser une larme, le reportage de Thibaut Hue.
Ni gerbe de fleurs, ni larmes, mais des mallettes et des costumes tirés à quatre épingles. Loin de la ferveur de Westminster, en plein cœur du quartier d'affaires de Londres, le business ne laisse pas de place à l'émotion. Depuis la mort de la reine, ici, c'est comme si rien ne s'était passé, assure Daniel, un comptable.
Ici, à la City, c'est plutôt normal. Il y a juste le lundi férié, mais c'est tout. La vie doit continuer, on ne peut pas prendre 10 jours de pause. Un jour seulement pour les funérailles, et ça ira, tout doit rester normal.
Dans le bureau de Sam Courtier, dans une banque, pas de photo d'Elisabeth II ou dommages rendus. Et ce jeune londonien, cravate rouge et cheveux blonds, vient travailler aussi sereinement que d'habitude. L'annonce du décès n'a pas fait trembler les marchés financiers.
Je n'ai pas vu d'impact, ce n'est rien du tout après ce qu'on a vécu avec le Covid ces deux dernières années. La monarchie, c'est à part. Si le gouvernement se disloquait, il y aurait de grosses conséquences ici. La monarchie, on aime la voir, mais c'est surtout une attraction touristique.
Et les touristes seront d'ailleurs très nombreux lundi prochain pour les funérailles, plusieurs millions, pendant que la plupart des employés de la City se reposeront chez eux, comme Julie.
Je n'ai pas envie de me joindre à ça, je suivrai depuis mon canapé.
À Londres, Thibaut Hue, Europe 1.
Et enfin, lui aussi s'envolera vers Londres pour un dernier match. La légende du tennis s'apprête à tirer sa révérence.
Roger Federer va définitivement ranger sa raquette. À 41 ans, le Suisse jouera son dernier match à Londres la semaine prochaine lors de la Laver Cup. Il laisse derrière lui un palmarès énorme, 103 titres dont 20 dans les tournois du Grand Chelem. Quel avenir maintenant pour Roger Federer ? Il répondait à cette question au micro d'Europe 1. C'était en 2016 face à Thomas Soto.
Et j'ai pris beaucoup de plaisir de pouvoir vraiment avoir plein de temps pour moi, mes plus proches.
Ça sera dans le monde du sport? Vous gérez votre marque, Roger Federer, ou ça sera quoi l'après?
Plus de temps pour la fondation, numéro un. Ouais. Forcément, ça, c'est très proche de mon cœur. Dans le tennis, je pense toujours que je vais avoir un sort de rôle de coaching, tu vois, de le faire plein temps, c'est impossible avec 4 enfants.
Ouais.
Je préfère d'être le papa plein temps et le mari plein temps.
Roger Federer, invité d'Europe 1 en 2016.
Voilà, Europe 1, la radio du tennis, partenaire de Roland-Garros, évidemment. On est très touchés de cette annonce de la retraite de Roger Federer. Peut-être reviendra-t-il, on ne sait pas. Merci Clément Barguin, c'était votre journal. Il est 8h11, dans un instant, Stanislas Guérini est l'invité d'Europe Matin. A tout de suite.
Europe 1.
Il est 8h14 sur Europe 1. Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes ministre de la Transformation et de la Fonction publique et pour encore quelques heures aussi, délégué général de La République En Marche qui demain va devenir Renaissance. Alors on va en parler, mais d'abord, inflation, possible récession sur fond de crise énergétique pour les Français, c'est une rentrée inquiète, notamment pour l'approvisionnement en énergie cet hiver. On a entendu la Première ministre Elisabeth Borne nous dire qu'il va falloir faire des économies d'énergie. On voit que de nombreuses communes annonce qu'elles vont passer au régime sec. Fin août, vous envisagiez pour les agents publics du télétravail si jamais il fallait fermer des bâtiments parce que les chauffer serait trop compliqué. Les syndicats l'ont pas du tout bien pris. Ils y ont vu une sorte de report de consommation sur les ménages. Est-ce que ça fait toujours partie des pistes envisagées ?
Non, mais d'abord, je vous réponds précisément. Mais le premier message, c'est que si collectivement, on fait des efforts de sobriété qui sont exactement dans le sens de l'histoire, parce que tout ça, c'est évidemment lié à la planification écologique qu'on doit mener pour arriver à une société décarbonée. Mais si on commence fort dès cet hiver et que collectivement, on réduit de 10% notre consommation, alors on passera à cet hiver.
C'est un gros effort, 10%.
C'est un gros effort collectif. Je pense qu'il peut être atteignable par beaucoup de gestes du quotidien, par une forme de discipline collective.
C'est 30 fois les économies d'énergie qu'on fait chaque année depuis 20 ans, quand même.
Et il peut être atteignable si ceux qui ont les plus forts impacts sur la consommation d'énergie, je pense aux entreprises, je pense évidemment aux administrations, commencent pour eux-mêmes par faire ce travail-là.
Oui.
Donc moi, je pense que c'est pour ça que c'est très important que dans ce plan de sobriété, on aura l'occasion de présenter pour l'État début octobre, d'ici quelques jours maintenant, on montre aux Français qu'on commence par nous-mêmes. On sera plus crédible.
Oui.
Ensuite, pour conseiller à chacun, on ne le fera pas de façon coercitive, de faire des efforts du quotidien. Ça va sur des sujets de chauffage, ça va aussi sur des sujets de mobilité.
Donc,
sur le télétravail, je vais vous répondre.
Oui.
Sur le télétravail, c'est important.
Bien sûr.
Moi, simplement, ce que j'ai dit, c'est que le télétravail, c'était une question qui était liée à l'organisation du travail. Si jamais, à la fois, on a des agents qui télétravaillent et puis d'autres agents publics qui travaillent dans un bâtiment, eh bien, à ce moment-là, on doit chauffer et chez les gens et dans le bâtiment public. Donc, cette question-là, on devra la poser. Mais j'ai voulu, et j'étais hier avec les organisations syndicales, vraiment rassurer tout le monde. Moi, j'imposerai jamais un plan de télétravail national subi de façon homogène dans tous les services publics.
Oui,
ça n'aurait pas de sens, parce que chaque service s'organise différemment.
On comprend qu'un plan efficace d'économie d'énergie vous impose quand même d'être radical. C'est soit on met tout le monde dans les bureaux, soit c'est tout le monde chez soi.
C'est pas forcément radical. Moi, je pense qu'un plan de sobriété pour la puissance publique qui fonctionne, c'est un plan qui est crédible vis-à-vis des administrations elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas simplement incantatoire, c'est pas de dire faites moins 10% et puis on vous donne aucun outil, aucun moyen pour réussir à le faire. Comment est-ce qu'on forme les agents? Comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'on déploie des énergéticiens dans les différentes administrations pour concrètement aider chaque service?
Des énergéticiens?
Chaque administration, oui, ce sont des métiers qui existent, vous voyez.
C'est-à-dire des gens qui vont vous dire comment on règle la clim
même, les deux mains dans la chaudière. Oui. Et qui vérifie si les choses sont bien réglées, si on ne peut pas installer ici ou là un thermostat intelligent. Par exemple, vous voyez, pardon d'être aussi concret que ça, mais c'est ça un plan de sobriété réussi. Et puis un plan de sobriété réussi, c'est un plan qui est crédible vis-à-vis des agents eux-mêmes. Vous voyez, avant l'été, moi j'ai pris une décision qui était d'élargir ce qu'on appelle le forfait mobilité durable. Rembourser les salariés qui décident de prendre des mobilités douces pour venir au travail. Mais avant, s'ils avaient un transport
ça,
en commun,
ça, c'est du
on
ne
pouvait pas le cumuler. Oui. C'est fini. Oui. Donc il y a beaucoup plus d'agents publics qui pourront en bénéficier.
Mais
vous voyez, ce type de petites mesures, ça nous rend plus crédibles pour déployer notre plan.
Mais là, dans l'urgence de l'hiver qui approche, imaginons qu'il soit très froid, est-ce qu'il y a des mesures un peu radicales sur la table du style, je vous pose la question très directement, une forme de confinement énergétique? On reste chez soi parce que chauffer les lieux de travail, ce serait trop gourmand en énergie.
Ouais. Moi, ce que je crois, c'est que si on déploie, je dirais par nous-mêmes, de façon non subie, les bons efforts, alors on pourra passer l'hiver.
Mais ce que vous je souhaiterais pas... Vous misez sur les bonnes volontés, donc.
bonne volonté, organisation, et je vous ai donné quelques éléments, oui. Il y en aura d'autres.
Il n'y a pas de mesures coercitives sur la table.
Voilà, qui nous rendent crédibles. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est à la fois pour les Français, mais aussi pour les administrations et les agents de la fonction publique, c'est accompagner tout le monde, leur donner des outils, y compris les former.
Oui.
Moi, je commencerai début octobre à déployer un grand plan de formation pour former dans toutes les administrations du pays les décideurs, les chefs de service, ceux qui ont des leviers. Justement, la planification écologique, ce ne sera pas des formations théoriques. Il faut le faire un peu, donner un appui sur la science. Mais ce sera vraiment des moments de mise en action pour que ces plans d'action, ces plans de sobriété soient nourris par le terrain, non pas par le haut, par des circulaires simplement. C'est utile,
non, mais
des circulaires,
vous misez
mais
sur,
le faire de façon très concrète. Moi, je crois vraiment à ça. Mais ce qui serait dommage, et je veux insister une seconde là-dessus, c'est qu'on fasse ces efforts-là, et puis qu'ensuite, parce que, par exemple, on aurait réussi à passer l'hiver, ce que je crois vraiment encore une fois possible, c'est ça le message.
On verra, hein, on verra s'il fait moins 15,
à ce moment-là,
ça peut arriver. Hein.
Vous voyez, on s'arrête. C'est une occasion unique pour vraiment mettre la gomme, mettre le paquet et initier de façon très forte cette planification écologique.
Au-delà de votre périmètre ministériel, Stanislas Guérini, vous faites partie de l'entourage du chef de l'État, vous avez assisté aux discussions au Conseil national de la refondation. Il n'y a pas de plan coercitif en cas d'un hiver très dur. Je parlais de confinement énergétique, la police du chauffage, ce genre de choses. Enfin, ça paraît un peu absurde comme ça, mais pourquoi pas ?
Non, il n'y a pas de plan caché aujourd'hui. Et justement, la façon dont on a voulu construire les choses, c'est de le faire dans le dialogue. Vous voyez, moi, j'ai reçu l'ensemble des organisations syndicales pour justement que toutes les idées, il n'y en a aucune qu'on mette sous le tapis, il n'y en a aucune qu'on cache, c'est-à-dire qu'on les discute, parce que je pense que leur bonne acceptabilité, c'est une condition de réussite pour garantir l'efficacité du plan de sobriété.
Stanislas Guérini, vous êtes ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Alors, vous le disiez, vous avez reçu les syndicats en votre ministère hier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, quand on est ministre de la Fonction publique, on s'occupe de l'hôpital, mais aussi un peu de l'école, etc. La question salariale, elle est omniprésente. C'est là-dessus que les syndicats vous interpellent le plus. Ils vous demandent d'aller au-delà du dégel du point d'indice de 3,5% au début de l'été. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, un mécanisme d'indexation des traitements sur l'inflation est envisagé, ou est-ce que c'est d'ores et déjà exclu? Qu'est-ce que vous leur dites au syndicat de
fonctionnaires? D'abord, hier, moi j'ai effectivement l'honneur d'être le ministre des 5,7 agents publics dans le pays.
Ça vient aux 7 millions. Hein.
Oui. 5,7 millions, pardon. C'est un grand honneur parce que je crois qu'il faut le dire et le redire. On a besoin des agents publics dans notre pays. Ils font un travail extraordinaire. Et les Français l'ont constaté de façon très éclatante, si je puis dire, pendant la crise sanitaire.
On a besoin d'eux, vous ne croyez pas si bien dire. On a du mal à recruter.
On a vraiment besoin d'eux. Et moi, j'ai fait, et je ne m'en cache pas, de l'attractivité de la fonction publique, mon premier défi. J'ai commencé de façon crédible. Avant l'été, nous avons augmenté le point d'indice plus que nous l'avions fait depuis 37 ans. C'est le début du quinquennat de François Mitterrand.
Oui, mais c'est 2,5 points en dessous de l'inflation de cette année.
C'est sur l'ensemble des mesures, et j'en ai discuté hier avec les organisations syndicales, quand on prend à la fois les augmentations moyennes dans la fonction publique, la décision particulière qu'on a faite sur le point d'indice, les mesures de protection des Français qui ont été prises. Il n'y a pas un pays au monde qui a fait ce que nous avons fait sur l'énergie. Alors, je crois qu'on répond effectivement aux hausses de prix. D'ailleurs, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. C'est peut-être pour ça qu'on est le pays d'Europe qui a l'inflation la moins forte. Donc, moi, j'ai été clair avec les organisations syndicales. Je ne souhaite pas de mécanisme automatique d'indexation du point sur l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation qu'on a dans le pays, ce n'est pas la même inflation qu'aux États-Unis.
Oui.
Aux États-Unis, il y a vraiment ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent, la boucle salaire-inflation. Vous voyez, ce cycle où ça se retrouve dans les salaires, mais ça se retrouve immédiatement dans les prix.
Oui.
Et c'est une spirale qui est assez terrible. L'inflation qu'on vit, nous, en France, c'est une inflation qui est importée, qui est notamment importée beaucoup par les prix de l'énergie.
Oui, mais enfin, vous voyez, moi, regardez les enseignants.
Je crois
le mal qu'on a en trouvé aujourd'hui.
Vous avez raison. Ça, moi, je viens de vous répondre sur la stratégie économique de réponse à l'inflation. Et je pense que ce qu'on fait, c'est la bonne solution. Et d'ailleurs, ça marche mieux, vous le voyez dans les chiffres, que dans beaucoup d'autres pays européens. Puis, il y a ce grand défi d'attractivité dont je parlais. Là aussi, je vais être tout à fait clair, on n'a pas épuisé ce défi-là. Il se joue sur la fiche de paye. Je ne serais pas crédible si je ne vous disais pas ça.
Oui.
Regardez ce que mon collègue Pape Ndiaye annonce pour les professeurs de ce pays, ce que nous avons commencé à faire avec le Ségur pour les soignants. Eh bien, proposer des carrières plus dynamiques, revoir la façon dont les grilles de rémunération des agents publics sont construites, sont faites dans le pays, c'est un grand chantier. Et puis il y a, au-delà de la fiche de paye, l'organisation du travail, la qualité de vie au travail, le sens qu'on peut donner à la mission des agents publics, qui est aussi aussi un immense défi. Parce que moi, tous mes interlocuteurs, ils me disent, monsieur le ministre, redonner du sens au travail que nous menons sur le terrain.
Il n'est plus question de suppression de postes, ce genre de choses.
Mais c'est intéressant votre question, parce que c'est vrai qu'en 2017, notre programme, c'était 120 000 suppressions de fonctionnaires. Et puis, il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu évidemment la crise sanitaire, il y a eu une succession de moments qui ont montré à quel point, au fond, c'était plutôt un sujet d'organisation de la puissance publique, d'organisation du service public, plutôt qu'un programme de suppression de fonctionnaires. Moi, je suis un ministre de la fonction publique, donc la feuille de route ne repose pas sur des suppressions de postes.
Mais j'entends ce que
revanche,
vous dites.
Il faut mieux organiser. C'est-à-dire qu'il faut moins d'administration centrale, il faut plus d'administration sur le terrain.
J'entends
ça,
ce que
c'est
vous
ma feuille de route.
Vous avez vu dans l'actualité cet homme de 81 ans qui est mort sur un brancard aux urgences à Strasbourg. Alors là, je me sers de cette histoire pour vous dire aussi, et l'usager dans tout ça. Parce que finalement, on a l'impression que la question salariale, la question de l'attractivité des métiers de la fonction publique, mettent de côté aussi la question de l'efficacité de la prestation envers les Français.
Moi, je crois tout le contraire. Pardon, mais je pense que ce qu'on fait pour nos agents, ça a des conséquences très profondes pour l'usager, c'est-à-dire vous, moi, c'est-à-dire le citoyen, c'est-à-dire cet homme de 80 ans, dont l'histoire est évidemment terrible.
Quand on voit le coût de l'hôpital, on se dit, bon sang, c'est comment c'est possible.
Ça prend évidemment aux tripes quand on entend des histoires comme ça. Je crois que les deux sont en réalité intimement liés. Moi, je pense qu'il y a une affaire, de symétrie des attentions qu'on peut porter aux agents publics et à l'usager. Et on agit très profondément. Je vais prendre un exemple. On parle souvent de présence du service public sur le terrain. Regardez ce qu'on a fait. C'était une promesse du président au lendemain du grand débat national de réouvrir des services publics dans les territoires de France. On a réouvert, bientôt, d'ici la fin de l'année, on aura réouvert quasiment 2600 maisons France Service, c'est-à-dire des points où nos citoyens, nos concitoyens, peuvent franchir une porte, poser une question, quelle que soit leur démarche administrative, et 8 fois sur 10, ils repartent avec la bonne réponse. Et le reste du temps, on les a mis en contact avec la bonne administration et on leur apporte des réponses. Ça, je crois que c'est la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut remettre des services publics dans nos territoires, mais il faut le faire en donnant du sens. Il y a ce grand défi, au fond, le défi de la puissance publique, il a vraiment changé. On est fait face à des grandes transitions écologiques, numériques, démographiques, géopolitiques.
Il a changé.
On doit repositionner aussi la mission des services publics. Ils ne pourront pas faire tout seuls, mais on doit investir dans nos services publics, j'y crois fondamentalement.
Stanislas Guérini, c'est un peu au-delà de votre périmètre de votre portefeuille ministériel, mais tout de même, on reparle beaucoup de la réforme des retraites. On lit dans la presse que le président de la République finalement se dit on n'a que les inconvénients du sujet, puisque la rumeur de la réforme possible génère beaucoup de mécontentement. Et donc, il serait question de le faire peut-être un peu à la hussarde en l'inscrivant dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Si ça n'est pas voté, il y a toujours le recours possible légal à l'article 49.3. Est-ce ainsi que ça va se passer, Stanislas Guérini?
Alors, je ne sais pas le dire. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que je ne suis pas le ministre en charge de la réforme des retraites. C'est Olivier Dussopt, ministre du Travail.
Vous êtes un proche du président de la République, délégué général d'En Marche. C'était dans le projet du président.
De ne pas éviter les réponses. Et j'allais vous dire précisément ça. Nous, on ne reparle pas de la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle a été présentée dans le cadre de l'élection présidentielle de façon extrêmement claire. Si vous me posez la question, est-ce qu'une réforme des retraites le fait de travailler plus longtemps, c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre pays?
Mais pourquoi?
Je vous réponds oui, sans ambiguïté.
Pourquoi?
Pour une raison très simple. On a un modèle social qui est plus protecteur que la plupart de nos voisins européens et que la plupart des pays de l'OCDE. Et on compte continuer à investir dans ce modèle social. Parce qu'il y a beaucoup de progrès à financer. On en mentionnait quelques-uns sur les services publics. On pourrait citer évidemment la question de la transition démographique et la meilleure prise en compte de nos aînés pour leur donner plus d'autonomie. Donc nous, on souhaite investir et conforter notre modèle social. Mais comment on peut financer ce modèle social qui est plus protecteur que les autres pays européens en travaillant moins longtemps que dans les autres pays européens? Moi, si quelqu'un sait répondre à cette équation, à cette simple question-là, avec des mots que je pourrais comprendre, je suis prêt à l'avoir.
Sur la retraite, justement.
Au micro d'en face et avoir le débat avec lui. Parce que moi, je ne sais pas répondre à cette question. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une réforme des retraites? Eh bien, pour financer les progrès, l'ambition que porte le président de la République pour mieux protéger, pour mieux accompagner, pour se battre contre l'assignation à résidence.
nos concitoyens.
Dans, à propos des retraites, l'Institut Molinari remet une couche hein, sur quelque chose qu'on sait depuis longtemps, à savoir qu'un employeur privé, il paye en gros 28 à 30% des cotisations en retraite de ses salariés. L'État employeur, lui, en règle 70% pour les fonctionnaires. Alors, il y a une question d'équité d'abord entre les salariés du privé et les fonctionnaires, puisque l'État, quand il comble pour les fonctionnaires, c'est avec l'argent des impôts. Est-ce qu'il est question quand même de remettre ça en question quand même ? Parce que ça montre une chose, c'est que l'État a promis à ses personnels des retraites généreuses sans anticiper bah, que les fonctionnaires ne pourraient pas se les payer.
Oui, mais vous voyez, c'est très intéressant la question que vous me posez là, parce qu'on ne peut pas répondre sans la lier à la conversation que nous avions juste avant sur les salaires des fonctionnaires. On ne peut pas d'un côté dire qu'il y a un déficit d'attractivité, on a des fonctionnaires qui ne sont pas suffisamment bien payés dans le pays, vous avez pris l'exemple des profs, c'est vrai, on le reconnaît, et ensuite dire « ah oui, mais ils ont un système de retraite trop généreux ». La difficulté qu'on a, c'est que le système de retraite des agents publics, il est souvent perçu comme une forme de compensation de ce qu'ils n'ont pas reçu pendant leur carrière au sein de la fonction publique. Donc, si on veut pouvoir bouger, c'est aussi dans ces deux aspects, c'est là qu'on voit que parler de retraite, ça doit nécessairement être intimement lié au fait de parler de travail et de la façon dont sont construites les rémunérations. Et donc, c'est bien ces deux chantiers-là qu'on va mener de pair.
Merci Stanislas Guérini. Le temps nous est compté, vous aurez bien gardé encore un peu. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
Merci.
Et délégué général de La République En Marche pour encore quelques heures. Le parti devient Renaissance demain. Dans un instant, Catherine Ney, Eugénie Bastier sur Europe 1.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Europe 1, 8h32, les dernières informations, Christophe Lamarre.
Les vendredis thématiques d'Europe 1 ont fait le livre toute la journée sur notre antenne, reportage et interview. Le livre rattrapé par la hausse du coût de l'énergie. C'est une information qu'Europe 1 vous donne depuis ce matin. Les éditions Kalman-Lévy annoncent une augmentation du prix du livre de 1 euro l'année prochaine. Vous pourrez entendre le directeur général de Kalman-Lévy dans La France Bouge à partir de 13h. La France, toujours touchée par les incendies, 400 hectares détruits en Charente. Dans le département voisin de la Gironde, l'incendie dans la région de Somme s'est fixé. 3400 hectares ont été brûlés. La plupart des habitants évacués ont pu regagner leur domicile. Un millier de vols annulés aujourd'hui en France, cela représente la moitié du trafic habituel. Les contrôleurs aériens réclament des embauches et des augmentations de salaire. Un nouveau préavis de grève est déjà déposé, du 28 au 30 septembre inclus. L'enquête sur l'agression de la joueuse parisienne Kera Amraoui, son ex-partenaire au PSG Aminata Diallo, a été de nouveau placée en garde à vue. On apprend par ailleurs que 3 des 4 hommes interpellés dans cette affaire seront présentés à un juge dans la journée pour être mis en examen. La retraite d'une légende du tennis, Roger Federer rangera sa raquette après un ultime rendez-vous avec la balle jaune. Ce sera la semaine prochaine à l'occasion de la Laver Cup, un tournoi exhibition dont il est l'organisateur. Trahi par son corps, le Suisse aux 20 victoires en Grand Chelem estime qu'il est temps pour lui d'arrêter. Enfin en basket, la France est à une marche de la finale. Les Bleus affrontent la Pologne cet après-midi à 17h15 en demi-finale de l'Euro. Le vainqueur affrontera l'Espagne ou l'Allemagne qui sont opposés dans l'autre demi-finale.
Merci Christophe Lamarre. Le temps.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Anissa Dadi, la fraîcheur est au rendez-vous ce matin.
Ça y est, on a vraiment une dégringolade côté température. On vous en parle depuis le début de la semaine. C'est officiel, 17 cet après-midi à Dunkerque, 18 à Paris. On perd 10 degrés entre lundi et aujourd'hui. 20 à Clermont-Ferrand, 23 pour Lyon, 27 à Albi, 29 à Nice et Marseille et 32 degrés en Corse à Bastia. Dans le ciel, on a un temps un petit peu plus gris et humide sur le nord-est. Ce matin, entre les Vosges et les Alpes. Cet après-midi, sur une plus grande partie est entre les Hauts-de-France, le Massif central, la vallée du Rhône et évidemment le Grand Est, c'est gris avec pas mal de petites averses. Ailleurs, c'est plutôt calme, alternance de nuages et d'éclaircies. Et au bord de l'Atlantique, au bord de la Méditerranée, c'est du grand et beau soleil avec, attention, Mistral et Tramontane au bord de la Méditerranée.
Un coup d'un mot du week-end.
Allez, rapidement, le week-end, ça s'améliore pour les journées du patrimoine. C'est un temps plutôt agréable. Alors demain va ressembler à aujourd'hui, de la pluie sur le nord-est et agréable ailleurs. Dimanche, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de soleil, mais il va faire frais. Les premiers flocons arrivent dans les Alpes. Non. 1600 mètres demain, on aura des flocons. Et les premières gelées blanches, dimanche matin dans le nord-est.
Sans transition de l'été brûlant à l'hiver glacial. Merci Anissa, 8h35.
7h, 9h.
Europe Matin.
Les signatures Europe 1 et le vendredi, c'est évidemment Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Avec la guerre en Ukraine, une femme politique a émergé sur la scène européenne. C'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. On ne la reconnaît plus, hein.
Mais oui, parce que vous savez, jusqu'ici, les discours de VDL, comme on l'appelle, on ne les attendait pas avec intérêt ni gourmandise. Question de style, vous savez, très gratin, allemand, un ton serré, collier de perles, cheveux et lignes parfaites pour une mère de 7 enfants. Voilà, une femme tenue. Et puis, mercredi, surprise, pour son discours de l'état de l'Union devant le Parlement européen, on l'a vue transfigurée. On la sentait mue par cette force de ceux qui se sentent investis d'une mission supérieure et qui ont trouvé la cause juste qui devient leur raison d'être, la défense de l'Ukraine jusqu'au bout. Il est là, son credo, son combat. Vêtue de jaune et bleu aux couleurs de l'Ukraine, elle a fait applaudir longuement Olga Zelenska, son invitée de marque, dans l'hémicycle, l'épouse du président ukrainien. L'Ukraine est forte, a-t-elle dit, parce que des gens comme votre mari sont restés à Kiev pour diriger la résistance avec vous et vos enfants, cher ami. La bravoure des Ukrainiens porte ses fruits. Sitôt le discours terminé, VDL est parti pour Kiev avec Olga pour rencontrer pour la troisième fois le président ukrainien. Et on a pu voir qu'entre eux, il y avait comme une entente privilégiée. Elle le regarde comme son héros et lui sa bienfaitrice. Il a fait poser une plaque à son nom dans l'allée de la bravoure.
Les députés européens ont découvert à travers elle une femme politique. Hein.
Oui, offensive, déterminée, alternant l'anglais, l'allemand, le français, alors que beaucoup redoutent que la fatigue gagne les 27 sous la pression des citoyens, des entreprises qui ont peur d'avoir froid ou d'arrêter leur activité, elle leur dit « Il ne faut pas lâcher. Les sanctions portent leurs fruits. L'industrie russe, dit-elle, est en lambeaux. L'armée russe doit récupérer des puces sur les lave-vaisselles et les réfrigérateurs pour réparer son matériel militaire. Son secteur financier est sous assistance respiratoire et les avions cloués au sol, faute de pièces, de rechange. Alors je le dis avec conviction qu'avec le courage et la solidarité, Poutine échouera, l'Ukraine l'emportera et avec nous l'Europe, parce que c'est une guerre qui porte notre avenir, notre valeur.
Ouais, fin de citation.
C'était, voilà, fin de citation.
C'était Ursula qui parlait, ça n'était pas vous. Le déclic, Ursula von der Leyen l'aurait eu en avril dernier, lors d'une visite à Kiev où on l'a amenée à Boutcha.
Oui, on lui a montré tous ces corps de villageois torturés par les Russes, des femmes, des enfants tués, violés par la soldatesque des barbares. Alors elle a craqué et elle a compris et elle a fait son mea culpa à la tribune. Elle, l'ex-ministre de la Défense, elle le dit. Elle aurait dû écouter depuis plus longtemps les voix de la Pologne, des pays baltes, de l'Europe centrale et orientale qui avaient subi l'oppression soviétique et qui lui disaient depuis des années que Poutine ne s'arrêterait pas, qu'il était dangereux, manipulateur, menteur, cruel et qu'il ne fallait surtout pas lui faire confiance.
Et elle a impressionné les élus européens, mais elle aussi subit quelques critiques.
Hein. Oui, de la LFI, bien sûr, Manon Aubry, qui tenait à la main des factures d'électricité de citoyens qui augmentent tellement, elles explosent même. Eh bien, VDL lui a rétorqué, ben envoyez-les à Poutine. Parce que elle, sa conviction est faite. Ce qui se passe en Ukraine, c'est la guerre des autocrates contre les démocraties, dont elle veut élargir le périmètre. Je veux, dit-elle, que les peuples balkans occidentaux d'Ukraine, de Moldavie, de Géorgie le sachent. Vous faites partie de notre famille. Votre avenir est dans notre union. Faisant fi dans son élan des difficultés qu'il y aura à faire fonctionner une Europe de 30 ou 35 quand c'est si difficile à 27. Mais elle a ouvert la voie à une modification des traités. On subodore tout de même que ça prendra du temps.
Ursula von der Leyen est devenue l'incarnation de la détermination européenne.
Oui, ce qui tranche avec l'Allemagne, son pays, hein, l'Ukraine déçoit, est déçue parce qu'elle attend les chars Léopard et Marder qui seraient prêts à être livrés. Mais le chancelier Scholz traîne les pieds alors que les Verts et les libéraux de sa coalition le pressent d'accélérer les livraisons. Mardi, il a encore eu avec Poutine une conversation qui a duré une heure pour parler de négociations diplomatiques, de retrait des troupes. Enfin, il a essayé, cause toujours, bien sûr. Alors le lendemain, von der Leyen tançait le chancelier. L'heure n'est pas à l'apaisement. Mais hier soir, la ministre allemande a annoncé la livraison de nouveaux lance-roquettes multiples, de roquettes, 50 véhicules de transport, mais toujours pas de chars. Parce que Scholz, lui, il n'a qu'une obsession, c'est le manque de gaz, la préservation de son industrie et que l'ours russe finisse par se déguiser en mouton. Voilà, il voudrait tellement y croire.
Ouais, à chacun sa raison d'être, dirais-je. Merci beaucoup Catherine Nair pour votre regard. On vous retrouve vendredi prochain, 8h40. C'est l'heure de la revue de presse Europe 1, des idées toutes les semaines avec vous Eugénie Bastier, bonjour.
Bonjour Dimitri.
Alors vous souhaitez revenir aujourd'hui sur cette bataille Roussel-Rousseau qui agitait la gauche cette semaine suite aux mots du patron du Parti communiste. Il déclarait lors de la fête de l'UMA qu'il préférait la gauche du travail à la gauche des allocs.
Oui, pour Roussel, le travail est une valeur de gauche, pour Rousseau c'est une valeur de droite. Roussel-Rousseau. Ces deux-là sont un peu comme les représentations idéologiquement pures de deux gauches irréconciliables. Mais celle du premier est minoritaire, dans son propre camp. En déclarant préférer le travail au chômage, je n'imaginais pas provoquer pareille polémique, écrit un peu naïvement Fabien Roussel dans une tribune dans Le Monde. Que n'avais-je dit ? Et il n'exagère pas du tout. Hein. Mediapart l'accuse carrément de dérive idéologique. Rendez-vous compte, le patron du PCF, écrit le journaliste de Mediapart, a fait l'objet d'éloges de la part d'éditorialistes de droite. On en a mis au goulag pour moins que ça. Dans Le Monde, Fabien Roussel persiste et signe. Je me bats pour une société qui se fixe comme horizon de garantir un emploi, une formation, un salaire à chacun de ses concitoyens. Et je m'inscris en faux contre ceux qui théorisent la fin du travail. Il vise évidemment là ceux qui veulent le revenu universel ou ceux qui n'ont à la bouche que la réduction du temps de travail.
Mais est-ce que la gauche n'est pas dans son rôle, Eugénie, quand elle réclame moins de travail ?
Avant, la gauche critiquait les conditions de travail, mais pas l'essence même du travail. Aujourd'hui, elle ne devrait pas réclamer moins de travail, mais mieux de travail. Car il y a une forme d'émancipation, de grandeur, d'attachement au monde dans le travail lorsqu'il est bien fait et lorsqu'il a du sens. C'est ce que dit d'ailleurs le député François Ruffin, plus Jaurès que Nupes, dans Marianne. Il y a, je le cite, dans le sens commun, l'évidence d'un « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », la fierté du travail accompli dont la gauche s'est éloignée. Il faut lire aussi d'ailleurs, pour comprendre ce sens du travail, l'interview dans l'Obs des économistes Thomas Coutreau et Coralie Pérez qui publient un livre intitulé « Redonner du sens au travail » et qui lie justement la perte du sens du travail au phénomène actuel que vous connaissez sans doute de grande démission qu'on peut observer dans les pays occidentaux. Pour ces chercheurs, il y a plusieurs facteurs à cette perte de sens. Le management par le chiffre dans les grandes entreprises, l'éloignement des salariés des centres de décision ou encore la sous-traitance généralisée. C'est aussi l'avis de Natacha Polony dans Marianne qui dit, je la cite, « Le management contemporain associé aux technologies numériques est en train de mettre en œuvre dans les emplois de service cette déshumanisation que le travail à la chaîne avait introduite dans l'industrie. C'est contre cela qu'il faut agir », dit la directrice de Marianne. Voilà ce que devrait promettre la gauche, un travail qui a du sens, correctement rémunéré, plutôt que le droit à la paresse, la réduction du temps de travail ou l'assistanat.
Tiens, puisqu'on parle d'assistanat, Eugénie, celui-ci commence dès le plus jeune âge en France.
Oui, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans vous parler de cet article du Monde intitulé « Où sont passés les enfants des villes ?» où l'on apprend que 97% des élèves de l'école élémentaire sont accompagnés d'adultes pour aller à l'école. On ne voit plus quasiment d'enfants seuls dans
vrai.
La rue.
Le petit Nicolas.
Dans la rue à Paris. Oui, les aventures du petit Nicolas, où les gamins se retrouvent après l'école sur des terrains vagues. Eh bien, c'est terminé. Chambre, classe, dodo. Tel est le triptyque des petits-enfants des villes. Je cite un philosophe qui parle justement dans cet article du Monde. Il dit « Les enfants sont confinés. » Depuis 2 ans, le mot était un peu galvaudé, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Une autre personne interrogée, Anne-Marie Rodas, avance un argument démographique. Elle dit « Dans une famille nombreuse, il faut que les enfants sortent, sinon c'est le souk à la maison. » Aujourd'hui, on a moins d'enfants, souvent 1 ou 2. On les surinvestit. La réussite sociale et scolaire est devenue majeure. Il n'y a plus de place pour les activités libres. Et dans cet article du Monde, les penseurs interrogés plaident pour donner finalement un peu plus d'autonomie aux enfants. Moins de smartphones, plus de sorties, les laisser aller seuls, acheter le pain par exemple. Ou adapter la ville en baissant la vitesse de circulation des voitures ou en créant des chemins verts où ils puissent circuler un peu partout. En finir avec l'assistanat des enfants, leur redonner un peu plus de liberté. Voilà un beau programme qui n'est ni de droite ni de gauche.
Ah mais on va vous brandir la sécurité là-dedans. Ah là là, mais c'est un énorme sujet. Merci beaucoup Eugénie Bastier. Vous aussi, je vous dis à la semaine prochaine pour cette revue de presse unique en son genre, cette revue de presse Europe 1 des idées. 8h44, Europe 1, faites la rentrée littéraire. Eh bien, nous recevons dans un instant la PDG de l'éditeur J.C. Lattès. À tout de suite.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Europe 1, faites la rentrée littéraire en ce vendredi, toute la journée, on va vous en parler. C'est un événement culturel, hein, la rentrée littéraire, commerciale, médiatique aussi, dans le point d'orgue, ce sera le mois prochain, le cortège des prix, Goncourt, Renaudot, Femina, etc. La rentrée littéraire incontournable de l'économie du livre, en tout cas en France. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Véronique Cardy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente directrice générale des éditions Jean-Claude Lattès, merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1 et Nicolas Carreau nous a rejoint, notre notre journaliste bouquin, le lecteur plus rapide de l'Ouest parisien. Comment vous faites pour lire un livre par jour, Nicolas? Tiens.
Bah, moi, je lis toute la journée. Ouais. Je ne lis pas le soir quand je rentre chez moi. J'arrive juste après la chronique à 8h, je me mets à mon bureau, le dos bien droit, le livre posé sur le bureau, et crac, et crac, et crac, et je lis.
Vous avez une méthode de lecture?
100 pages à l'heure, vous voyez.
100 pages à l'heure? Ah ouais, c'est joli ça. Et le soir, quand vous allez vous coucher, vous...
Non, surtout pas. Surtout.
Vous ne lisez pas? Non.
Des classiques ou des livres pour moi.
Véronique Cardi, donc je ne sais pas si vous lisez autant que Nicolas Caro, mais lui reçoit tous les livres que vous publiez. La rentrée littéraire pour une éditrice comme vous, qu'est-ce que ça représente?
C'est un moment d'excitation maximale parce que même si c'est une spécificité française de publier effectivement tant de livres au moment de la rentrée, c'est-à-dire après l'été où les gens ont a priori plus de temps pour lire, c'est vrai que ça offre aussi un coup de projecteur sur la littérature qui, pour nous autres éditeurs, est bienvenue.
Mais ça vient d'où d'ailleurs cette rentrée littéraire? Historiquement, ça démarre quand?
Alors historiquement, ça démarre dans les années 50. En fait, c'est lié à la création d'un certain nombre de prix littéraires, dont le Goncourt et les autres, qui se positionnent en septembre. Oui. Et donc, les éditeurs voulant participer à cette course au prix publient les livres à ce moment-là.
Au 19e siècle, il y avait la rentrée théâtrale, par exemple. Et finalement, on a singé un petit peu ces traditions-là qui venaient d'autres arts, d'une certaine manière.
Peut-être. Reste que y a aussi des lecteurs qui lisent uniquement les titres qui sont mis en avant au moment de la rentrée littéraire. Oui. Par exemple, certains lecteurs occasionnels qui n'achètent que le Goncourt pendant l'année. Donc, c'est sûr que pour les éditeurs, c'est un enjeu d'en faire partie.
Je vous ai entendu tout à l'heure Nicolas Caro dire que c'était gagné au loto remporter le Goncourt.
Ah bah, en moyenne, les ventes de Goncourt, c'est 400 000 exemplaires. Oui. Vous gagnez à peu près 1,50€ par livre. C'est gigantesque. Et puis, il y a les exceptions. Hervé Le Tellier, par exemple, il a 1,2 million. Ouais. De vente, alors que c'était pas du tout joué au départ. Quoi. Alors, pas un auteur qui vendait des best-sellers, donc ça c'est assez impressionnant.
On voit que la Palme d'Or à Cannes n'est pas du tout garante d'un succès en salle pour le cinéma, alors que les prix littéraires, en revanche, ça marche extrêmement bien.
Il y a quelques petites exceptions où ils ont fait que 200 000 ventes, mais c'est gigantesque. Alors, un livre aujourd'hui qui se vend très bien, c'est à peu près, je parle sous le contrôle de Véronique Cardi, c'est 10-15 000, on est très 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 heureux quand on en vend autant.
Ah oui, parce qu'en fait la grille de loto pour les prix, c'est 490 cases là cette année.
Exactement.
Vous en avez combien vous
Alors nous on en a 5
seulement,
chez Lattès. Voilà,
seulement.
On essaye d'être sélectif, mais parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus à cette période, donc on choisit avec soin les auteurs qu'on publie à cette période-là. Nous par exemple cette année, on a fait le choix de publier pour la première fois en rentrée littéraire de septembre Sandrine Collette, qui pourtant publie son 10e livre, mais le premier en rentrée de septembre. Mais on voit bien, alors on a la chance qu'elle soit sur un certain nombre de listes de prix, dont le Renaudot et le Femina, et puis le prix Giono. Mais c'était un pari. En salon, elle continue à recevoir des gens qui ne l'avaient jamais lu au terme de ses 10 livres.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ben les salons, on va en parler parce qu'il y a toute cette économie autour de la rentrée littéraire du livre. La place de la télévision aussi qui a révolutionné ça. Tiens, j'ai cette phrase de Jean d'Ormesson d'ailleurs, Nicolas Caro. Un livre qui passe à la télévision est un livre menacé parce que la télé transforme le livre en spectacle. Mmh. Alors c'est du d'Ormesson, c'est magnifique, mais quand même, disons-le, les émissions littéraires depuis les années 60-70, ça a aussi accompagné l'industrie du livre.
Absolument, mais ça c'est aussi un peu grâce à la rentrée littéraire, parce que ça a quand même de grands avantages cette rentrée littéraire, même si c'est d'une violence sans nom en fait. C'est-à-dire que on parle de certains livres qui émergent, notamment grâce aux listes de prix, mais il y a la foule des écrivains qui passe complètement inaperçue. Et c'est terrible ça, de voir son livre qui n'est pas mis en avant, qui parfois n'est même pas dans les librairies, faute de place. Ça c'est très très violent, mais ça n'empêche pas que 90% des écrivains se battent, se roulent par terre et tapent du pied pour être à la rentrée littéraire de septembre et pas à celle de janvier et pas à celle de printemps, parce que ça reste le moment où en France on parle des livres dans les médias. Effectivement, on fait une journée spéciale rentrée littéraire sur une grande radio nationale, on parle de bouquins toute la journée, enfin c'est à la fois c'est magnifique et en même temps ça focalise sur un moment, alors que toute l'année il y a effectivement des livres. En janvier il y en aura aussi 450.
C'est vrai, ils se roulent dans votre bureau Véronique Cardi, les auteurs, pour être à la rentrée littéraire?
Il se roule pas dans mon bureau, mais c'est devant, comme le disait, non mais comme le disait Nicolas, c'est un tel coup de projecteur que on a tout intérêt à tenter des paris, y compris d'ailleurs avec des découvertes, parce que c'est un moment où aussi les lecteurs, y a cette appétence pour la découverte, d'où d'ailleurs cette rentrée sur les 490 romans qui sont publiés, 90 premiers romans, un pourcentage qui est en hausse. Et nous, par exemple, on a fait le choix de publier le premier roman de Julia Minkowski, Par-delà l'attente, où elle se plonge dans la tête de l'avocate des sœurs Papin.
Nicolas Caron nous en a parlé, c'est à retrouver sur europe1.fr.
Voilà. Ouais. Et on voit que ces premiers romans, la découverte de nouvelles voix, c'est aussi ce que les lecteurs attendent d'une rentrée littéraire.
Et les journalistes, il y a une prime aux primo-romanciers, c'est-à-dire que chaque rentrée littéraire, il y a des dossiers sur qui sont les primo-romanciers cette année, quel est le phénomène qui va émerger. Cette année, c'est aussi Anthony Passeron, qui a publié Les Enfants Endormis, on en a parlé aussi chez Globe, et tout à coup on voit comme ça un emballement aussi à cause de cette nouveauté. Tout à l'heure on a passé un papier de Louise Salé qui a suivi une primo-romancière, Amélie Fonlupte. C'est vrai que ça intéresse aussi, donc ça peut être effectivement un pied à l'étrier incroyable, cette rentrée littéraire pour des primo-romanciers, mais encore une fois, il y en a 5. Et puis les 80 autres, bah, ils passent inaperçus.
Alors, est-ce que la rentrée littéraire, Véronique Cardis, hume l'air du temps ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont raccords avec l'actualité, avec les événements récents ? Je ne sais pas, par exemple, dans cette rentrée littéraire, cette profusion de nouveaux ouvrages, est-ce que vous détectez une tendance particulière, quelque chose qui est connecté aux tripes de la société, d'une certaine manière ?
Alors, je pense que la littérature sonde et sans doute sent avant l'heure ce qui se passe dans la société.
Ah oui, c'est
moi, j'observe
comme ça,
surtout une diversité totale, ce que nous, on a à cœur aussi de favoriser dans le choix justement de nos titres de rentrée, parce que l'idée, c'est de ne pas publier des livres qui sont que sur les mêmes sujets, mais au contraire, que chacun ait son territoire propre. Moi, je pense à un livre de Abdourahmane Ouaberi, Dis-moi pour qui j'existe, où là, on est du côté de Djibouti, de l'Afrique, d'une voix d'un père qui veut sauver sa fille justement grâce au pouvoir des mots. Donc chaque éditeur construit sa rentrée pour que ses auteurs explorent des territoires propres et qui ne se phagocytent pas, ce qui crée cette diversité.
Tiens, justement, question que je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs se posent, c'est l'éditeur, est-ce qu'il se contente de publier les bons manuscrits qu'il a reçus, ou bien est-ce que ça vous arrive de passer commande, de dire à un auteur, je veux que tu me parles de ça, je veux que tu me fasses un ouvrage là-dessus. Est-ce que vous êtes dirigiste ou pas ?
Alors, en fiction, c'est quand même très rare de passer commande. En non-fiction, c'est beaucoup plus fréquent, puisque avec tel journaliste ou auteur ou spécialiste, on peut parler de sujets qui seraient à traiter. En fiction, c'est quand même beaucoup plus rare. Et ensuite, c'est aussi des rendez-vous attendus. Cette rentrée, on publie le nouveau roman d'Isabelle Desesquelles. C'est vrai qui a déjà été couronné par le Fémina des lycéens. Et donc, l'idée, c'était de répondre à cette attente. Ça fait quatre livre qu'elle est publiée en rentrée de septembre, donc avec Là où je nous entraîne, qui remonte à la source de son écriture, c'était bien d'être présent cette rentrée.
Et Nicolas Caron, on voit aussi, alors la rentrée littéraire, c'est évidemment les têtes d'affiche, on les voit partout cette année, alors les mêmes, tout le temps les mêmes, hein, Despentes, Nothomb, Carrère, Alain Mabankou, etc. Et on voit que finalement que la concentration de l'intérêt du nombre de pages dans les médias autour d'un nombre réduit d'auteurs, peu comme dans l'industrie musicale finalement.
De toute façon, il y a une baisse sédarisation du marché depuis quelques temps, même assez inquiétante, c'est-à-dire qu'avant il y avait quand même un milieu qui prospérait, qui était autour de 25 000 à chaque fois. Maintenant, c'est beaucoup de best-sellers qui vendent des centaines de milliers, et puis les autres qui sont vraiment en dessous de ces scores-là, même à des scores assez bas. Mais justement, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de poids lourds comme ça qui préfèrent sortir en janvier, et parce qu'ils ne veulent pas être noyés dans les nouveautés qui vont être mises en avant dans la rentrée littéraire de septembre.
Ils ont peur des petits jeunes, poids lourds.
C'est intéressant parce qu'en fait, on parle de ces poids lourds en septembre, au début en fait, et puis très vite, on passe aux nouveautés. Ouais. C'est aussi ça ce qui nous intéresse.
Super, merci beaucoup Nicolas Caron. On va vous retrouver toute la journée d'ailleurs, parce que pendant tous les flashs, toute la journée, des conseils de libraires, et je sais que vous êtes allé recueillir quelques conseils, vous aussi, dans les librairies parisiennes. Merci aussi à Véronique Cardis d'être venue nous voir.
Merci.
Présidente directrice directrice générale des éditions Jean-Claude Lattès. Je croise les doigts pour vous.
Merci.
Un prix pour J.C. Lattès, ce serait sympa. 8h57 sur Europe 1. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Culture Média sur Europe 1, ça démarre dans un instant. Tiens, on parle de livres. Un bouquin là que vous recommanderiez aux auditeurs d'Europe 1.
Il y en a tellement, j'en ai lu tellement. Peut-être l'Emma Becker. La suite de la maison, j'ai oublié le titre. Parce
L'inconduite.
Merci beaucoup. L'inconduite avez... qui est dans la liste du Flore.
Ouais.
Parce que hier soir, c'était le premier dîner du Flore et il y a Emma Becker qui s'est retrouvée, qui avait failli avoir le Flore l'an passé, ouais. qui s'est retrouvée à la liste du Flore. Je ne vais pas donner la liste du Flore. Il n'y a rien de chez la thèse dans la
merci
liste du Flore cette année.
Merci de le souligner. Merci de le souligner.
Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à le dire ici. Notre infomédia du jour. Une heure culture assez exceptionnelle, éphémère, c'est un album, un mini-album avec Gaël Faye, Grand Corps Malade, Ben Mazuet. Ils l'ont enregistré en 4 ou 5 jours, ils seront tous les 3 dans ce studio, ils nous feront un live. On sera aussi avec Julien Bugier qui va présenter l'émission télé la plus regardée au monde, enfin pas seulement sur France 2.
Oui.
Les funérailles d'Elisabeth II, lundi, 4 milliards de téléspectateurs attendus. Pour donner une idée, la finale de la Coupe du Monde de foot c'est 1 milliard. Et le mariage Kate et Harry, c'est bien ça, c'est les bons prénoms.
3 milliards,
c'était
5, je crois,
3 milliards, ouais. exactement. Donc là, c'est encore plus. Et puis aussi, on va parler sport et médias avec Sacha Nokovic. Et je n'oublie pas Laurent Mariotte pour la rubrique gastronomie, parce que c'est également de la culture.
Kate et William.
Voilà, ouais. Parce que si vous nous croisez
William,
les couples,
Harry
alors là,
et Meghan. Je ne suis pas, je suis pas ces trucs. Je suis meilleur dans l'édition que dans les royautés.
Allez, merci Philippe. Bonne émission. Excellente journée. C'est Lénaïque Monnier qui vous accompagne demain dans Europe Matin. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Bon week-end.